Bienvenue à Boulevard 102.1, bienvenue à l'émission On en jase avec Jeff Fortin et Mathias Turcotte. Je sais que vous serez plusieurs nouveaux auditeurs, auditrices midi, parce que ce matin, on a fait une superbe belle annonce. Nico Lacroix s'en vient dans l'émission On en jase à compter de lundi, avec Max Larouche aussi qui va s'en venir dans cette émission-là. Je vais continuer à être l'animateur. Donc, bienvenue aux nouveaux auditeurs, nouvelles auditrices qui commencent déjà à nous écouter avant l'arrivée de Nico. Ça me fait plaisir. Moi, c'est Jeff Fortin, animateur d'On en jase depuis l'an dernier. Très heureux de vous accueillir dans la belle famille de Boulevard 101. Puis vous allez voir, on traite d'actualité politique, on traite d'actualité locale. D'ailleurs, on va parler de ce scrum de Bruno Marchand tout à l'heure. Puis on le fait là, de façon à vous laisser beaucoup de place. D'ailleurs, 418-971-1021 pour commenter tout ce qu'on dit en studio, donner votre opinion, juste nous dire un beau bon midi. Ça nous fait plaisir, guys, d'être là pour vous. Parmi les annonces qui ont été faites aussi ce matin, Catherine Saint-Laurent qui va intégrer l'équipe du matin. Donc, Max Larouche va animer le point de Max, va être co-animateur de l'émission On en jase. Et Catherine Saint-Laurent qui prend la place de Max Larouche le matin aux nouvelles comme co-animatrice et également va être la co-animatrice de Max dans le point de Max. Catherine qui est une jeune femme très informée, très politisée. Une de ses premières interventions, Mathias, ça a été dur. On fait-tu une émission spéciale pour la soirée électorale?
Ah, ben, t'es déjà prête.
Ça. Gardons ça. J'espère donc qu'on va en faire une.
Ah, non,
une émission
non.
spéciale. Donc, ça va être très plaisant. Nico, qui est une machine de guerre en art et spectacle, ça va tellement être un plus exceptionnel pour la station, avec son expérience de Québec, là, évidemment.
Ah, c'est vraiment de très beaux ajouts là, qu'on a fait à la programmation. Puis ça va être fun, ça va continuer. J'ai envie de dire, ça va grossir notre équipe. Je pense qu'on avait un besoin de ce côté-là.
Ah ouais, tu fais 8 heures de radio.
Ouais, ben c'est ça. Ah non, mais tu sais, pour de vrai avoir une meilleure ben diversité,
oui.
Puis c'est deux beaux ajouts, deux
vraiment.
Belles personnes. De ce que j'ai pas eu la chance de leur parler énormément, mais c'est que du bien que j'ai entendu ces personnes-là, autant dans derrière les ondes qu'en dehors des ondes. Donc non, vraiment hâte de faire plus ample connaissance.
Il y a eu une vague d'amour par texto ce matin pour Nico et Catherine et continuez justement de nous écrire au 418-971-1021. À soir, c'est la première réunion très sérieuse de l'émission On en jase parce que tu le sais, c'est sérieux cette émission-là du début à la fin dans la préparation également. Donc on va aller justement à l'Emporium. On va être plate. Une petite bière, une petite pizza, on va préparer ça. Moi, Nico et Max Larouche.
Hey, c'est une soirée déplaisante, ça.
Ça va être vraiment plate. Ça va être vraiment plate. Je sais même si tu es à l'Emporium ce soir. On va être là entre 5 et 7, 8 à peu près. Venez nous dire salut. Ça va nous faire très, 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 très plaisir. Mathieu, par texto au 418-971-101, qui dit « Hey, coudonc, guys! Mathias va reprendre sa job sur le terrain. » C'est en plein ça.
C'est ça, le plan de match.
Ben oui, puis même, t'es allé voir le maire, toi.
Ben oui, hey!
Allez voir le maire à matin. Je suis tellement, tellement, tellement énervé. Tu vas nous présenter des extraits tantôt. Bon midi d'un nouvel auditeur du Nouveau-Brunswick. Bien content de passer mes journées avec vous. Bien, merci infiniment d'être là. Puis si jamais tu veux nous écrire ton nom, ça va me faire plaisir de te saluer en onde. Donc non, bien hâte à la semaine prochaine. Très content de faire de la radio cette semaine avec Mathias. Hier, on s'est claqué un petit 8 heures. Là, cette semaine, on est de mardi, mercredi, jeudi, on est de retour dans notre On en jase, mais on va se reclaquer un petit 8 heures vendredi. Là,
question un dernier marathon.
Dernier marathon, exactement. Question de bien finir. D'ailleurs, on parle de la semaine. Bien, vous rappelez que c'est le match des Capitals Boulevard ce jeudi au stade de Canac. Les Capitals qui amorcent ce soir une série de 3 matchs face aux Miners de Sussex County. Donc, il y a toujours des billets disponibles sur le capitaldequebec.ca. Allez vous procurer vos billets. Max Larouche va faire le lancer protocolaire. On n'est vraiment pas sûr qu'il va rendre la balle au marbre, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, manquez pas ça. Venez nous voir, ça va nous faire plaisir. On va être sur la terrasse à compter de 17h. Venez nous jaser. Venez jaser à nos deux nouvelles recrues, Nico et Kat, deux personnes d'expérience en radio qui s'ajoutent à nous. On est tellement contents de vous rencontrer, chers auditeurs, chères auditrices. Donc, venez au match des Capitals jeudi. Ça va nous faire un immense plaisir de vous jaser.
Un petit tour sur la route, Jeff. Henri IV, direction nord, sortie pour le boulevard Hochelaga, la voie droite qui est présentement bloquée en raison d'une panne. J'ai pas le choix de vous mentionner aussi, il y a clairement quelque chose de spécial qui se passe sur la 73 pour accéder au pont Pierre-Laporte en direction nord parce qu'il y a un ralentissement qui s'est créé au cours des dernières minutes. Sinon, ralentissement habituel sur la 20 direction ouest entre Taniata et Président Kennedy présentement.
Du côté de nos auditeurs, j'ai le goût de vous gâter en partant le show. En vol les Macadam qui est fier de dévoiler sa 29e édition qui se tiendra du 10 au 12 septembre prochain à l'Agora du Port de Québec. Fidèle à sa mission, En vol et Macadam vous propose 3 journées de musique alternative célébrant entre autres le punk, le hardcore, le metal et le ska. Au programme Bad Religion, Heartbreak, Disptide, Satanic Surfer, Teenage et plusieurs d'autres. Des concerts sont aussi offerts à l'Antibar Spectacle, au Scanner Bistro et à la Source de la Martinière. Mais savez-vous quoi? Textez-nous. Avec qui vous iriez à Envol et Macadam et on fait tirer une paire de passeports pour les 3 jours du festival à l'instant même au 418-971-1021. Avec qui vous allez profiter de ce beau festival punk d'Envol et Macadam? Textez-nous 418-971-1021 avec votre nom, avec votre numéro de téléphone et on va faire un gagnant parmi tous ceux et celles qui ont répondu. Pour ceux qui ne gagneront pas, je vous rappelle que les billets sont en vente sur envolemacadam.com et Envol et Macadam, évidemment, c'est une présentation de la station qui vous joue la meilleure musique la fin de semaine, c'est-à-dire Boulevard 102.1. Mathias, avant qu'on parle du maire Marchand et de sa sortie publique, dis-moi donc, qu'est-ce qu'on doit suivre dans l'actualité?
Oui, bien, je reviens sur Paul Saint-Pierre Plamondon qui a fait sa grosse annonce en lien avec le référendum ce matin sur son Facebook à 7h30. Il avait annoncé hier soir, finalement, ce qu'on nous a appris, c'est que le Parti québécois ne prévoit pas tenir un référendum sur l'indépendance du Québec avant le départ du président américain Donald Trump en 2029. Donc, on prévoit toujours le faire dans un premier mandat, sauf qu'on veut attendre le départ du président actuel. Ce qu'on explique, c'est que actuellement Donald Trump met beaucoup d'imprévisibilité, ce qui fait en sorte qu'on préfère attendre. Aussi, le PQ qui veut démontrer qu'il dirigerait d'ici là un bon gouvernement en attendant le référendum. La décision du chef du PQ qui a été remis aujourd'hui, même si on avait déjà une idée là, que c'était déjà dans les plans du parti. Christine Fréchette qui a fait une sortie à ce propos au cours des dernières minutes. Elle a dénoncé l'instabilité qu'un référendum de fin de mandat créerait.
On en parle tout à l'heure avec Antonine Iaccarini dans le caucus. Je vous le rappelle, c'est maintenant midi 30. Mais honnêtement, là, la CAQ et le PLQ pigent dans le même lunch présentement. Là. La sortie sur la peur d'un référendum de Christine Fréchette. Tabarouette, on aurait dit Jean Charest à l'époque, là.
Les tarifs douaniers de Donald Trump doivent rentrer en vigueur dans quelques heures seulement parce que je vous rappelle que ça rentre à minuit, en vigueur à minuit ce soir pour demain, justement, le 19 août qui est déjà arrivé. Ces fameux tarifs de 50%. Et c'est maintenant la Chambre de commerce des États-Unis qui demande à l'administration de Donald Trump de conclure un accord au plus vite avec le Canada avant l'entrée en vigueur de ces nouveaux tarifs. Pour vous rappeler comment des tarifs fonctionnent, mais c'est une taxe que les entreprises américaines paient lorsqu'ils importent des produits canadiens. Ce qui veut dire que c'est des entreprises américaines qui paieraient une taxe qu'on paye par le fait même indirectement, là. Mais ça ne fait pas l'affaire des entreprises du côté des États-Unis pour le moment. Et je termine avec une fuite massive de renseignements personnels qui touche 414 000 clients québécois d'une billetterie d'ici, justement. La fuite de données qui est survenue le 11 juillet dernier, c'est ce que nous rapporte le Journal de Québec. C'est la compagnie Experience, donc vendait entre autres les billets des Saguenayens de Chicoutimi lors des dernières séries éliminatoires. Donc, ça touche 414 000 clients.
Le midi, on en jase.
Ah, oh, Mathias, j'avais hâte à ce moment-là. Le maire Marchand, faut le dire, qui est un maire qui est très disponible pour la sphère médiatique,
oui.
Contrairement à d'autres maires de d'autres municipalités. Là, comme il avait le droit, il a pris ses vacances. On a vu des belles images de ses vacances en Italie avec Monique Néron, sa conjointe. Mais là, il était de retour à Québec. Il a convoqué les journalistes pour répondre à des questions d'actualité. Moi, ma première question, il était-tu en forme, le maire?
Hey, pour de vrai, là, puis tu l'as dit, les disponibilités que le maire nous donne, il nous a donné 42 minutes de scrum.
Tu sais, honnêtement, là, ça, il faut que je le souligne, c'est exceptionnel.
Mais normalement, c'est le seul politicien
là,
à faire ça.
Ah oh, oui, normalement, un scrum, là, je vous dirais, c'est maximum 10 minutes, mais régulièrement, c'est 5-6 ouais. minutes. Puis après 5-6 minutes, l'attaché de presse dit... Puis là, vous allez voir, là, vous allez m'entendre. « Ouais, OK, c'est bon, on a fini, là, viens-t'en! » Parce que là, l'attaché de presse s'éloigne pour être sûr que le politicien s'éloigne avec...
Puis il coupe des journalistes qui ont encore des questions. Du côté du maire Marchand, on attend que les journalistes n'aient plus de questions. Mm-hmm. Puis ce matin, ben, ça a pris 42 minutes parce qu'il y avait beaucoup de sujets, étant donné que c'était le retour de vacances. J'aimerais commencer par revenir sur les événements qui sont survenus dans la nuit de vendredi à samedi sur le pont Pierre-Laporte. On a très peu d'informations pour le moment. On n'a toujours pas d'informations du tireur, des motivations de ce dernier. Ça tarde à être divulgué. J'ai posé la question au maire Marchand. Est-ce que c'est problématique que l'information tarde à ce point?
La réponse est idéalement non. Notre question est très légitime. Mais je présume, puis là, vous comprenez, je suis loin, là, c'est d'autres corps policiers qui sont dans cette enquête-là, et c'est normal, c'est là que ça s'est passé. S'ils le font pas, je pense pas que c'est dans un but de retenir l'information. Mais vous avez raison que l'effet délétère, c'est que ça fait partir un paquet de rumeurs, un paquet de gens qui émettent des hypothèses qui parfois peuvent être très farfelues. Mais si la police ne les met pas, je pense pas qu'au Québec, on a un enjeu de rétention de l'information par les services policiers.
Moi, Mathias, là, mon point de vue là-dessus, c'est il n'y a rien de mieux que la transparence. Puis ça, que ce soit envers nos politiciens, envers nos institutions, dans ta vie privée, il n'y a rien de mieux que la transparence. Et... j'aurais vu, moi, le corps policier sortir puis juste dire « Hey, écoutez, on peut pas vous donner d'informations à l'heure actuelle pour telle, telle, telle raison. Dès que possible, on vous fait le topo. » Personne partirait sur des lubies de « ça doit être parce que c'est un policier. Il était peut-être en filature. Ça doit être parce que c'est un mineur. » Personne partirait là-dessus sur ces lubies-là parce qu'on dirait « Hey, on a juste besoin encore de temps avant de vous divulguer les informations. Puis voici pourquoi. » On arrêterait tout.
Donner des raisons un peu plus concrètes seulement il ne faut pas nuire à l'enquête. Le maire Marchand qui a quand même tenu à rappeler que c'est pas le service de police de la Ville de Québec là, qui s'occupe de cette affaire-là. Eux, leur travail, ça a été de fermer le pont Pierre-Laporte dans la nuit de vendredi
Exactement.
À samedi puis samedi matin. C'est la SQ qui s'en occupe. Mais c'est sûr qu'on aimerait ça pouvoir avoir un peu plus d'informations que ce qu'on a actuellement.
En plein ça, il y a le Bureau des enquêtes indépendantes également qui est là-dessus. Bon, évidemment, cet incident-là sur le pont Pierre-Laporte, on en a longuement parlé hier. Ça a rappelé qu'on travaille pour un troisième lien à Québec parce qu'il y a eu une circulation monstre samedi qui passait par le pont de Québec. Éric Duhaime a fait sa fameuse vidéo. Il y en a qui l'ont défendu. Il y en a qui ont dit « ça n'a pas de sens ». Prend un drame. Bruno Marchand, lui, qu'est-ce qu'il pense de ça, du troisième lien?
Ben c'est ça. On en a parlé, la proposition d'Éric Duhaime, sa sortie. Je tiens à dire tout d'abord qu'il n'a pas critiqué le fait qu'Éric Duhaime est sorti sur l'événement.
Parfait.
Mais il y avait quand même son mot à dire sur la preuve qu'il a besoin pour appuyer les projets de troisième lien. Je vous laisse entendre.
Quand M. Duhaime dit « je vais passer sur l'île », ben vous voyez, ce matin, il y a des camionneurs qui disent « ouais, mais est-ce qu'on va être capable de vraiment fluidifier sur l'île parce que la route n'est pas faite pour ça? » Ça suppose de présenter un projet puis de démontrer à quel point ça améliore la vie des gens. Ma position, elle ne bouge pas. Vous croyez au troisième lien? Démontrez en quoi la solution que vous présentez va améliorer la vie des gens de Québec. Et ça, on ne peut pas juste le démontrer par un événement qui se passe, qui est tragique, là, mais qui se passe un soir, qui est très malheureux. Il faut le démontrer au quotidien. Comment ça va améliorer la vie des gens?
Moi, je dois être fou, Mathias. D'après moi, je dois être fou parce que je pense pas comme le maire Marchand. Le trafic qu'on vit pour les ponts à chaque jour, puis même les samedis et dimanches après-midi, où c'est bloqué jusque sur Félix Leclerc, c'est pas une preuve. Les camions, qui justement, parce qu'il est arrivé un incident sur le pont Pierre-Laporte, ont dû faire le détour par Trois-Rivières. C'est pas une bonne raison. Le monde qui ont été pogné dans un bouchon de circulation extrême le samedi, puis on va me dire que c'est un événement, je suis entièrement d'accord, mais on n'est pas à l'abri qu'un autre événement se produise, un de ces quatre, c'est pas une bonne raison.
Bien, pour le maire, visiblement, c'est pas suffisant.
OK. 418-971-1021. Vous en pensez quoi de la position de votre maire par rapport au troisième lien? Je comprends là, que le maire veut des études scientifiques d'un volume de 200 pages. Là. D'ailleurs, Geneviève Guilbeault avait des gros cartables quand elle avait enterré le troisième lien. Là. Mais il me semble que si on fait juste regarder la logique, si on fait juste regarder la vie courante, ça nous prouve qu'on a besoin d'un troisième lien.
Ou du moins, écoute, on est à même place pour ça, Jeff. Ce que je trouve intéressant dans la position du maire Marchand, puis ça m'a un peu pris par surprise, on ferme la porte à aucun des projets. Et que ce soit le projet de la CAQ, le projet du PQ qui propose un troisième lien en transport en commun uniquement, ou encore le projet du Parti conservateur qui propose un lien sur le pont de l'île d'Orléans, du côté du maire Marchand, on a le même discours pour les trois projets. J'attends la preuve, puis une fois que j'ai la preuve, je vais me positionner.
C'est ça, je le redis, là, t'es le pont du Parti conservateur à une voix. Là. Pas sûr que ça serait... ça réglerait bien grand-chose. Il y a un accident sur le pont, puis t'es fini. Là.
C'est passé,
ça n'a pas de sens. Là. Faut être de mauvaise foi pour voir tout le trafic que ça enlève. Un troisième lien à l'est, nous écrit un auditeur entièrement d'accord. Hey, c'est drôle, le tramway n'a jamais rien démontré de façon absolue. Même les études d'infra machin chouette affirment que ça ne règle pas les problèmes de circulation. Ben, en effet, c'est deux poids, deux mesures chez les politiciens qui sont plus à gauche de l'échiquier politique par rapport au tramway et au troisième lien. Je suis très d'accord avec vous, chers auditeurs, auditrices. Bon, là, le maire Marchand, il avait parlé, si je me souviens bien, d'une taxe à l'eau pour les commerçants. Ça s'en vient-tu, ça, comme les foyers là, qu'on pourra plus utiliser à partir du 1er septembre?
Oui, bien, le maire en avait fait mention de ça. S'il y avait une utilisation d'eau exagérée pour les entreprises ou encore qu'on n'avait pas de tri de déchets, donc qu'on envoyait le carton directement dans les vidanges, eh bien, du côté de la ville, on évaluait mettre en place une nouvelle taxe si jamais il n'y avait pas d'amélioration.
Oui.
Eh bien, je peux te dire, ça a été assez clair aujourd'hui du côté du maire Marchand. Cette nouvelle taxe-là pour les entreprises, elle va être mise en place au prochain budget.
On a parlé de la taxe sur l'eau et de la taxe sur le recyclage des entreprises, ce qu'on appelle ICI, là, Institution Commerce et Industrie, pardon, les vacances sont... Il me manque un I. Ça va venir, c'est sûr. On n'a pas bougé.
Au cours des prochains conseils?
Bien, ça va venir pour le prochain budget. C'est impossible d'éviter le bâton. C'est possible individuellement de l'éviter au sens où les gens vont pouvoir jouer sur leur facture en recyclant, en utilisant mieux l'eau. Mais c'est pas. Le bâton, dans le prochain budget, il va venir.
OK, c'est impossible de... Comment il y a de ça, là?
Impossible d'éviter le bâton.
Impossible d'éviter. OK! Fait que là, le maire, là, les commerces de la ville, ils passent avec le bâton, mais paf! OK! Donne-moi de l'argent! Comme dans le temps, là!
Ben, on est rendu là,
à l'ère d'avant Jésus-Christ.
Ce qu'on a compris, parce que le maire avait...
Quelle image!
Le maire avait dit, si jamais la situation s'améliore, on va réévaluer l'option de mettre en place cette taxe ou pas. Là, ça a été assez clair aujourd'hui. Ça, c'est pas amélioré. Fait que pour que ça s'améliore, on va sortir le bâton, entre guillemets, cette taxe-là.
Ceci dit, je veux être très très fair play. Là, c'est la seule expression qui me vient, là, pardonnez-moi. Avec le maire, il y a des bâtiments commerciaux présentement qui ne recyclent pas. Hey guys, on est rendu en 2026, là. Prendre les déchets par votre homme ou votre femme de ménage, les déchets qui vont à la poubelle dans la main gauche puis le recyclage dans la main droite, là, on est là, là. Au primaire, on me montrait comment recycler, j'ai 46 ans. Là. Ces endroits-là, là, qu'on les surtaxe, j'ai pas de problème avec ça. À un moment donné, on est tous capables de recycler. Mais... sa sortie m'a prendre le bâton. Hey, wow, minute, là. C'est des commerçants qui font vivre la ville. C'est des industries qui offrent des services, payent des taxes. À un moment donné, je peux bien croire que le maire, c'est un maire de gauche puis qui tripe sur l'environnement, mais faudrait peut-être avoir un petit peu plus de respect. Pas peut-être, faudrait avoir plus de respect envers nos commerçants.
Et du côté du maire, comment on s'explique aussi de mettre en place cette taxe-là? C'est que la Ville de Québec a brûlé là, dans la dernière année 7,8 millions de dollars en raison du carton qui a été envoyé à l'incinérateur.
Ouais, ça, t'sais, honnêtement, ça n'a pas de bon sens. Là. T'sais, je veux dire, on est capable d'être meilleur là, du côté des commerçants puis même du côté des citoyens de Québec. Là. Hey, c'est pas un grand effort, là, mettre quelque chose dans le bac à recyclage ou quelque chose dans le bac à ordures. Là, on s'entend. Là. Donc, Donc ça, on est capable de mieux. Est-ce que ça passe par des taxes? Moi, c'est ça. C'est la question que je me pose tout le temps. On est déjà suffisamment taxés, que ce soit les commerces ou les citoyens. C'est là que j'embarque pas dans la lubie du maire.
Il y a quelques instants, tu parlais d'un maire de gauche. Puis un autre enjeu sur lequel le maire a mis beaucoup d'accent aujourd'hui. Puis c'est un enjeu que même des partis, c'est au cœur même de leur programme, semble délaisser au cours des derniers moments. Le maire Marchand a tenu à rappeler qu'il allait ramener l'enjeu de l'environnement à l'avant-plan durant la campagne électorale.
Ben oui, c'est ça, parce que même Québec solidaire a reculé ce matin.
Je vais moi-même ramener la question des changements climatiques. Je ne crois pas, je vais juste terminer là-dessus, je ne crois pas à ceux qui font dire au sondage que les gens sont plus intéressés au changement climatique. Je ne crois pas, après l'été qu'on vient de vivre, que l'adaptation au changement climatique ne fait pas partie des réalités des citoyens. Quand on se voit son sous-sol inondé, quand on se voit dans des îlots de chaleur, quand on se voit face à des enjeux où on attend toujours une pluie diluvienne sur Milan qui arrive fréquemment, on l'a vu dans des villes du Québec, je ne crois pas que les citoyens s'en foutent complètement.
Bon, fait que Québec, on va régler les problèmes environnementaux de la Terre, c'est ça qu'il nous dit? Parce qu'écoute, Ruba Gazal, en entrevue éditoriale dans le Journal de Québec ce matin, dit « On se démarque par rapport à la question environnementale, mais bien sûr, on est conscient de la fatigue climatique. Elle existe. Et c'est pourquoi même Québec solidaire, un parti complètement à gauche de l'échiquier politique, mentionne que l'environnement ne sera pas la priorité des priorités. La priorité, c'est d'aider les gens à payer leur loyer, à payer leur épicerie. » Fait que là, on a un maire, quand le parti le plus à gauche sur la scène provinciale, Québec solidaire, nous dit « Hey, là, l'environnement, on comprend qu'il y a une fatigue climatique. Puis c'est normal, les gens n'arrivent pas au bout du mois. » Fait que nos priorités vont être coût du loyer, coût de l'épicerie. On a un maire, nous autres, qui est encore plus à gauche que Québec solidaire parce qu'il dit « Hey, moi, je sauve la planète. » Mais pour sauver la planète, là, ça prend le monde entier qui embarque là. Tu sais, c'est correct, là, il peut avoir cette pensée-là. J'ai pas de problème, là. Mais là, j'ose espérer que le maire de Québec gérera pas la ville de façon gauche-socialiste. Parce que là, sinon, on va être dans le trouble.
Ce qu'on a dit aussi du côté du maire, c'est que oui, on a mis beaucoup d'accent sur l'environnement. Je tiens quand même à préciser qu'on a ramené les mêmes enjeux habituels, soit surtout l'itinérance, mm-hmm. ça, qu'on a beaucoup mis d'avant.
Tant mieux.
Les infrastructures aussi du côté du maire Marchand pour sa liste d'épicerie pour mm-hmm. la prochaine campagne électorale.
Tant mieux, mais c'est ça. Là, ça va prendre un maire de Québec qui est au centre, là, qui est équilibré. Là. C'est correct, là, je le comprends. Là. Là, en même temps, Yannick Marceau dirait « Il veut sauver la planète, puis il est allé en Italie en avion. » Il n'y a pas tort. Mais bon, bref. Là, le maire vous parlait pour la première fois, les journalistes de Québec, depuis son retour de vacances. Il n'est pas venu encore s'installer avec la gang de Gravel dans le retour.
Non.
Je ne l'ai pas vu dans des stations de radio concurrentes ou à la
non.
télé. Mais... C'est moi qui rêve ou je l'entendais à Montréal?
Ouais, ben en gros, le maire Marchand qui a donné sa première entrevue en sortant de ses vacances dans l'émission de Philippe Quentin dans Le Matin à Montréal, vendredi dernier. Il s'est fait questionner à savoir si c'est un exemple de montréalisation que le maire, sa première sortie médiatique, il la fasse du côté de Montréal et non de Québec. Je vous laisse entendre.
C'est pas ma rentrée. Ce qui explique ça, c'est une chose. C'est que Philippe Quentin terminait sa présence en nombre. Mm-hmm. C'était sa dernière émission.
Ah.
Son équipe m'avait demandé si j'étais disponible. J'étais en vacances, mais j'ai voulu être disponible parce que c'était sa dernière émission à Philippe Quentin. C'est quelqu'un que j'apprécie.
Mm-hmm.
Je pense que les gens de Québec et les médias de Québec, vous savez à quel point je suis disponible. Je vais répondre à vos questions autant qu'il y en a.
Donc, c'est pas un enjeu de Montréal.
C'est pas un enjeu de Montréal. Il y a des gens qui vont vouloir en faire un enjeu, mais non, c'est pas...
Ben, il y a quelque chose qui est bon dans sa réponse. Ça, c'est vrai, on l'a dit d'entrée de jeu, là, qui est très disponible pour les médias de Québec. Il n'y a pas de problème. Mais t'sais, ça sonne François Legault. Là. Ouais, c'est parce que là, Justin ne pouvait pas se déplacer hein, à Québec, fait qu'on l'a fait à Montréal. Ouais, je comprends qu'il y a une loi sur la capitale nationale, mais t'sais, hein, vous comprendrez, Mark Carney, il est à Ottawa, hein, fait que on va aller à Montréal. T'sais. Ça sonne vraiment excuse boboche, là. Moi, je pense que, puis là, je veux pas faire mon média qui veut juste prôner pour ma paroisse, mais je pense qu'un maire, comme le maire de Québec, a pas le choix de faire sa première sortie médiatique dans un média à Québec ou comme il l'a fait avec un scrum, qui aurait dû passer outre le fait d'aller s'asseoir avec Philippe Quentin.
T'sais, à la limite, si vous voulez aller avec Philippe Quentin, qui...
Faites-en une à Québec avant.
Ben, c'est ça. Rendu là, il aurait pu Il aurait pu sortir de ses vacances une journée à l'avance, le jeudi. Ben, en fait, il a déjà sorti de ses vacances à l'avance ce vendredi-là.
C'est ça.
Fait qu'il aurait pu dire, je fais une sortie médiatique le jeudi pour faire ma première sortie avec les journalistes de Québec. Et par la suite, je m'en vais du côté de Montréal.
À Lévis, ils font leur point de presse sur l'application Teams. Donc, il aurait pu faire un scrum en Teams le jeudi, même s'il n'était pas à Québec, puis l'offrir aux médias de Québec. Ça aurait été facile pour lui. Continuez à réagir. 418-971-1021. Vous pensez quoi de cette première sortie médiatique de Bruno Marchand? Nous, on fait une courte pause et on revient avec Antonine Iaccarini dans le caucus. Elle pense quoi, Anto, de cette sortie-là ce matin de PSPP? Moi, il ne m'a rien appris. Je savais qu'il ne ferait pas le référendum dans ses 2-3 premières années. Mais à la fin du premier mandat, mais j'ai hâte d'entendre Antonine Iaccarini là-dessus.
Et précis dans le caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici le caucus de Boulevard 102.1.
Le caucus avec Antonine Iaccarini à 12h30 dans l'émission d'Angers sur Boulevard 102.1. Anto, reprends-tu le rythme d'après vacances?
Ouais,
oh, attends, je vais ouvrir ton micro, ça va aller mieux. Vas-y donc.
Ça va aller mieux avec un micro ouvert.
Ben oui.
Allô?
Salut.
Tu vois, je suis de retour de vacances, faut que tu allumes mon micro.
Ben c'est ça, là.
Oui, ça se passe super bien. Ouais. Je suis un peu en retour progressif parce que tout n'est pas encore en branle. Mais dans 2 semaines, ça va être quelque chose.
Ben écoute, t'es très pertinente, donc c'est normal qu'on tente de t'arracher peu partout. Mais c'est vrai, c'est très, très, très vrai. Et d'ailleurs, même ce matin, lorsqu'on parlait de cette annonce de Paul Saint-Pierre Plamondon, qui a tout simplement dit sur ses médias sociaux, il n'y aura pas de référendum tant que Donald Trump va être là. Il y a des gens qui nous écrivaient par texto. Oh, j'ai hâte d'entendre Anto là-dessus.
Ouais, puis j'adore jaser avec le monde. J'ai fait une publication ce matin sur une plateforme de médias sociaux.
Ouais.
Et pour ceux qui disent c'est non nouvelle, pour une non nouvelle, ça fait jaser. J'ai reçu des centaines de commentaires et ça brasse un petit peu plus que je pensais. Parce que moi, j'ai eu la même réaction que toi, parce que tantôt je t'ai entendu, tu disais moi j'ai rien appris là. Moi non plus, parce qu'on suit la politique à tous les instants de nos vies.
Exactement, mais je me disais que c'est vrai pour le commun des mortels qu'ils fassent bien de le rappeler.
Pas parce que tu as dit quelque chose une fois dans un discours à 22h30 le soir à Chicoutimi que tout le monde l'a entendu. Nous, on l'a entendu.
T'as raison. Nous, on l'a entendu, on a fait jouer une cote, mais t'as raison que c'est pas tout le monde qui l'a entendu.
Donc, hier soir, Paul Saint-Pierre Plamondon qui nous a fait un petit teaser sur les médias sociaux. Je pense qu'il avait hâte qu'on arrête de parler de Churchill Falls. Hein?
Ça c'est
long.
Clair.
Nous disant qu'il allait faire une annonce le lendemain sur le référendum. Et là, mon téléphone explosa. J'ai reçu des textos. Qu'est-ce qu'il va annoncer? Puis est-ce qu'il va reculer? Puis là, je voyais les tweets de tout le monde passer, etc. J'ai jamais pensé qu'il allait reculer. Ce serait fou.
Ben moi non plus, j'ai jamais pensé qu'il allait reculer parce qu'il est en politique pour le faire, le référendum.
Mais ça me fait rire, par exemple. Je vais te faire un petit commentaire. Tu sais que j'ai des amis dans tous les partis.
Oui.
Je respecte tout le monde qui participe au débat politique. Mais quand j'entends mes amis libéraux dire... Je dis libéraux entre guillemets, vraiment au sens large, au fédéraliste, mettons, qui disent, ben pourquoi il abandonne pas sa promesse de référendum? Il serait élu. T'sais, allô? Pourquoi les gens sont cyniques? Abandonne ton idée principale le pouvoir.
T'sais, au contraire, moi, honnêtement, j'ai énormément de respect. D'ailleurs, on va l'avoir tout à l'heure, Paul Saint-Pierre Plamondon, plus aux alentours de 13h40, guys. Mais moi, j'ai énormément de respect pour Paul Saint-Pierre Plamondon parce qu'il l'a dit, il est en politique pour faire le référendum, amener le Québec à la souveraineté. Puis coûte que coûte, s'il est premier ministre majoritaire, il va en avoir un référendum.
Imagine s'il avait passé les 5 dernières années de sa vie à dire « je vais le faire ». Puis à 2 semaines des élections, finalement, je le ferai pas. Franchement, il perdrait tout. Tu sais, en ce moment, il y a à peu près 30 % des gens qui voteraient oui à un référendum.
Puis il y a 30 % des gens qui voteraient pour le PQ.
Donc, je m'excuse, mais si tu commences à reculer là-dessus, tu perds tout, là.
Ben oui.
Parce que, tu sais, c'est pas vrai que les gens plus fédéralistes ou plus moins souverainistes vont dire « ah, ben, j'y fais confiance, il en fera pas. » Les vrais, là, qui ont peur d'un référendum vont continuer d'avoir peur d'un référendum pareil. Donc, il a précisé ce matin que ce serait après le départ de Trump. Donc, c'est en fait, il a toujours dit, il a jamais dit que ce serait nécessairement dans les 2 premières années de son mandat. Sauf que là, il l'a précisé, ce serait après le départ du président américain. Là, évidemment, on peut se poser plein de questions. Est-ce que le départ de Trump veut dire la fin des problèmes avec les États-Unis? Est-ce que s'il est minoritaire, il va le faire quand même? Ça, c'est une question à laquelle on n'a pas de réponse. Le chef du PQ ne veut pas trop parler du fait d'être minoritaire ou pas. Les partis disent toujours qu'ils vont gagner majoritaire là, pendant la campagne électorale. Ils risquent de faire la même chose. Mais moi, j'ai trouvé que c'était assez habile. Parce que l'objectif du chef du PQ, c'était de rassurer sans reculer.
En effet.
Puis moi, les gens que j'ai vus dire « Oh, ils reculent », ce sont les fédéralistes, en fait. C'est pas les souverainistes qui disent « Ah, ben oui, vous voyez comment ça a choqué, je vais pas voter pour lui. Mm-hmm. » C'est les adversaires qui essayent de montrer, de mettre de l'avant le fait que PSPP recule. C'est pas un recul, ils précisent la date. T'as un mandat de 4 ans, tu peux bien le faire n'importe quand dans ton mandat de 4 ans. Puis d'ailleurs, si tu regardes les référendums de 80 et de 95, c'était pas 2 minutes après l'élection. Là.
Non, c'est ça. Hey, moi, là, j'ai entendu Christine Fréchette tout à l'heure sur les ondes de LCN. J'aurais pu mettre un chef du Parti libéral du Québec que ça aurait fait pareil. Ah non, le référendum, pas de référendum, l'instabilité du référendum. Hey, le référendum, ça fait peur. Hey, guys, moi, je suis là pour la stabilité, j'ai signé Churchill Fall. Hey, imaginez l'instabilité, il va le faire à la fin du mandat. On va être instable pendant 4 ans avec le PQ. C'est parce que j'ai trop entendu ce discours de peur-là que là, quand quelqu'un me le sert, je deviens cynique envers cette personne-là?
Je pense que oui. Là, effectivement, c'est difficile pour Christine Fréchette de se différencier des libéraux quand elle est sur ce terrain-là.
Mais là, là, dans le fond, elle décide d'aller piger dans le lunch PLQ. Là, on va prendre cette expression-là.
Bien, je pense qu'elle continue de viser les gens qui veulent une certaine forme de nationalisme. Donc, elle va répéter toujours... Moi, j'en ferai pas de référendum. Vous voyez, PSPP veut faire de la chicane, veut de l'instabilité, il n'est pas sur les bonnes priorités. Mais je vais défendre la langue, je vais limiter l'immigration, je vais renforcer la laïcité et je vais me tenir debout face à Ottawa, ce que le PLQ ne fera pas. Et là, aujourd'hui, c'est inconfortable parce que PSPP le savait très bien. C'est une bonne tactique, là.
Ben oui.
C'est excellent ce qu'il fait présentement. Et hier, c'était le contraire. Christine Fréchette avait mis PSPP sur la défensive. Aujourd'hui, on est dans la situation contraire. Mais PSPP, ce qu'il essaie de faire, c'est d'aller rechercher des votes nationalistes qui... peut-être regardait Christine Fréchette en se disant « C'est peut-être le bon compromis, dans le fond, entre les deux, puisque ça me tente pas tant qu'il y ait un référendum. » Bien là, ça te donne du temps. Tu sais, oui, dans 2 ans et demi, la question va se reposer pour le référendum, mais dans 2 ans et demi, là, on ne le sait pas où est-ce qu'on va aller.
Bien non, c'est ça, c'est dans 2 ans et demi. Tu sais, petite parenthèse sur Christine Fréchette. Moi, tu sais, je te l'ai dit, je crois beaucoup à la troisième voie, puis je suis quelqu'un qui me considère comme nationaliste. La question identitaire, la question des migrations, la question de la langue, c'est des questions qui viennent me chercher beaucoup. Je sais que la campagne électorale n'est pas commencée, mais à l'heure actuelle, Christine Fréchette, elle représente nullement le nationalisme pour moi, là.
Mais c'est pas vraiment un crayon sur lequel elle appuie très, très fort. Hein?
Non. C'est pour ça que je te dis que là, quand je l'écoute, j'entends un bon vieux chef du PLQ, puis moi, je veux pas voter pour le PLQ.
Non.
Fait que je vais me retrouver à voter pour le PQ par défaut. Peut-être dans le sens que si je suis un nationaliste, présentement, Christine Fréchette, elle m'attire zéro pin-bar.
Elle est plus du côté de l'économie. Pour l'instant, de l'approche qui est plus rassurante, etc. Mais qu'est-ce qui a été proposé en matière d'identité? Pas grand-chose pour le moment. On sent que c'est pas son dada. Mm-hmm. Elle a été pourtant ministre de l'Immigration. On pourrait proposer certaines choses, un dossier qu'elle connaît bien. On n'en parle pas beaucoup. Je pense qu'une des explications, c'est que la CAQ a quand même fait beaucoup de choses. T'sais, à un moment donné, là, tu ne vas pas interdire les religions. Là. Tu comprends?
Non, je comprends.
Ils n'ont comme plus rien à proposer, on dirait. Le PQ est rendu à proposer d'interdire les signes religieux chez les enfants. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans les dernières années, on va le dire comme ça. Par contre, si ce n'est pas sous forme de proposition, ça peut quand même être dans la rhétorique d'en parler.
Ouais.
Mais tu sens que ce n'est pas dans sa personnalité. Je pense qu'elle trouve ça divisif, polarisant, puis que ce n'est pas elle.
Ben, c'est parce que je reviens sur son discours de tout à l'heure, c'est que c'était un discours de Parti libéral. La peur du référendum, l'instabilité. J'ai l'impression qu'elle a répété ces deux mots-là 10 fois. Mais elle m'a jamais dit, hey, vous savez quoi, dans le Canada, on va bâtir un Québec fort. On était. Elle est jamais allée.
On est juste dans l'épouvantail, effectivement. Oui. Je reviens au chef péquiste. Parce
Vas-y
que, tu sais, on essaye beaucoup de lui accoler l'étiquette de quelqu'un de rigide, qui n'écoute pas, qui a toujours raison, puis qui. Tu sais, c'est quelque chose qui revient. Mm-hmm. On dit qu'il est soupe au lait, etc. là, je trouve qu'il a démontré juste assez de flexibilité pour contrer un peu cette spin communicationnelle-là en disant, écoutez, moi, je n'ai pas peur de Trump. T'sais, il l'a souvent dit, là, ça va passer, nanana. Mais au lieu de nous dire, calmez-vous donc, il dit, OK, ça vous stresse? Je comprends, c'est valide. Voici comment ça va se passer. Moi, quand je suis stressée, si tu me dis, Jeff, arrête de stresser, ça me déstresse pas.
Je le sais.
Au contraire, je me dis, Christy, il comprend pas c'est quoi mon stress. Il ne reconnaît pas qu'il y a un stress.
Je le sais. Dans ma vie personnelle, je fais tellement trop souvent cette erreur-là de dire, bon, ouais, non.
Mais là, c'était pas un vrai reproche que je te faisais.
Non,
c'est
non,
un,
non,
c'est un
je
exemple.
Le sais. Mais je sais que c'est quelque chose sur lequel il faut que je travaille.
Tu sais, la communication 101, là, tu vois, je me transforme en conseillère conjugale. Si tu dis, hey, je comprends que ça peut être stressant, c'est vrai, il y a beaucoup d'instabilité, mais voici ce que je te propose. On va faire ça comme ça, comme ça, comme ça. On va se mettre en action. Voici. Là, c'est clair, c'est transparent, c'est prévisible. C'est beaucoup plus efficace que de nier la validité du stress de quelqu'un.
Tu as tellement raison.
Je trouve que c'est ce que PSPP a fait cette semaine. Il avait un peu fait le printemps dernier, l'hiver dernier, dans son discours, mais là, il l'a vraiment réitéré juste à la veille de la campagne électorale. Je comprends votre anxiété. Mm-hmm. Je vous écoute. Et je serai flexible. Je trouve que c'est vraiment gagnant pour lui.
Ben, tu vois, un auditeur nous écrit, PSPP me démontre tout simplement qu'il est capable d'adaptation et d'analyse plutôt que d'entêtement aveugle. Je suis d'accord avec cet auditeur-là. Des questions qui n'arrêtent pas d'en venir par texto 418-971-1021. Continue de réagir. Si c'est Jill Evans, il fait quoi?
Bon, là...
Je vais lui poser la question tantôt, là, c'est sûr. Là.
Écoute, je vais aller plus loin, moi. Ouais. Si c'est les démocrates qui reviennent au pouvoir... Mm-hmm. Pensez-vous vraiment que tout va être réglé du jour au lendemain?
Ben non.
Ben non. Mais c'est pas grave, parce que pour l'instant... Mais premièrement, moi, je pense sincèrement que l'homme, Donald Trump, comme tel, est en partie... Je veux dire, ça, c'est quelque chose qui appartient à sa personne, qu'est-ce qui se passe actuellement.
En effet.
Le mouvement MAGA existe, il y a d'autres personnes, effectivement, mais le personnage comme tel, c'est du jamais vu, là. Tu sais, je veux dire...
Ah, t'as raison.
Jill Evans, c'est pas le même personnage que
Donald Trump. Je suis
d'accord
avec toi.
Deuxièmement, ben, il nous reste les élections de mi-mandat cet automne. On va voir si M. Trump perd un petit peu de levier d'action.
Mm-hmm.
Ça va déjà nous donner une idée de c'est quoi un Donald Trump qui est un peu affaibli. Est-ce
c'est
qu'il devient
vrai.
Pire ou il devient moins pire? Moi, j'ai très hâte de voir la dynamique si
j'adore
ça,
où
ça,
tu
ça
nous amènes. On parlait de personnages politiques. Bon, là, on va parler de celui qui m'énerve, mais pas à peu près. Je suis plus capable de Justin Trudeau. Hier, je disais... Pendant que Jean Charest, un ancien premier ministre du Québec, négocie aux États-Unis dans le camp du Canada, pendant que Stephen Harper, un ancien premier ministre, fait partie de la garde rapprochée de Mark Carney, pendant qu'on voit des hommes politiques comme Barack Obama, George W. Bush, tu sais, j'en nomme un démocrate, mais un républicain, que les gens comprennent bien, qui se comportent encore en président des États-Unis dans leur vie de tous les jours. Pardonnez-moi le sac, mais là, sacrement, on a un premier ministre qui danse avec un siphon dans une quincaillerie.
Moi, je suis plus capable non plus. Je suis dans ta gang, sérieusement. Puis je le sais que les médias, on est un peu responsables de ça. Là. À chaque fois qu'il lève le petit doigt puis qu'il se passe quelque chose, ça fait des articles, je n'en peux plus. Maintenant, est-ce que tu voudrais vraiment que Justin Trudeau se mêle?
Non! Ça, les auditeurs l'ont écrit au 418-971-101. Ils ont dit, Jeff, il est mieux avec Katy Perry. On veut plus rien savoir. C'est sûrement la plus grosse erreur politique de l'histoire d'un pays démocratique d'avoir permis à Justin Trudeau d'être premier ministre pendant 10 ans.
Bon.
Il n'y a pas d'affaire.
Écoute, moi aussi, ça me tape sur le chou. C'est pas mêlant, je signale les publications. Genre, je suis sur les médias sociaux, oh, puis je vois que ça parle de Katy Perry, puis de Justin Trudeau, et je clique sur le petit X. Tu sais, ça ne m'intéresse pas.
Je vais faire ça, moi.
Ça m'intéresse pas.
Mais là, Boutillage, on va payer, on paye pour lui, là, pour le protéger quand il s'en va dans un festival avec Katy Perry ou quand il est en train de danser dans une quincaillerie. Il peut-tu faire ses affaires tout seul puis nous laisser tranquille?
Non, premièrement, non, il peut pas nous laisser tranquille, visiblement. D'ailleurs, quand il était allé à Davos...
Oui.
Je me suis dit, oh non, s'il vous plaît.
Non,
retourne dans un festival ou dans un gala.
Hey, oui, quand il va donner une conférence, là, j'ai peur de ce qu'il va dire. Puis là, tu vas rire, là, mais j'ai peur de ce qu'il va dire de mon Canada.
Il était nationaliste il y a 2 minutes. OK. Ce matin...
Oui, mais ça, Mathias, il passe par toute la catégorie des émotions. Ah, tantôt, ça j'ai changé 4 fois de vote depuis un matin.
C'est une montagne russe. On s'ennuie jamais avec Jeff. Non. Écoute, on apprenait ce matin dans les pages du journal que la GRC assure toujours la sécurité de Justin Trudeau. Ça, c'est pas une nouvelle parce qu'on le sait que les anciens premiers ministres du Canada ont droit à certaines choses, et notamment de la sécurité. Et je pense que c'est bien correct. On est un pays qui se respecte, puis quand quelqu'un a été premier ministre pendant 10 ans, bien, c'est bien normal qu'il y ait certains services par la suite, puisque ta vie ne sera plus jamais la même non plus. Puis je pense qu'on leur doit bien. Là, par contre, évidemment, Justin Trudeau a décidé d'exagérer. Et ça, c'est venu me chambranler dans mes convictions, parce que moi, je me dis, je trouve ça correct qu'on paye pour ça.
Moi aussi.
Et surtout, Justin Trudeau a été premier ministre pendant la pandémie. Oui. Il a été victime de beaucoup de... menace, et même il s'est fait lancer des cailloux à quelques reprises.
Je trouve ça correct, mais quand tu te présentes encore comme un homme d'État, pas quand t'es le bouffon qui saute.
Mais comment on fait pour
dans
baliser
un vidéoclip de Katy Perry?
Comment on fait pour baliser ça? Y a-t-il un comité qui va dire « Toi, tu nous fais honte. Toi, t'es correct. » On peut pas faire ça. Alors, moi, je pense, parce qu'on sait pas combien ça coûte. La GRC, c'est assez opaque sur ce dossier-là. On ne sait pas combien coûte la sécurité de Justin Trudeau, qui est encore plus un enjeu compte tenu qu'il sort avec une vedette internationale. Ouais. Donc là, évidemment, ça rend ça encore plus compliqué. Et il voyage partout dans le monde, parce que sa blonde fait des tournées, parce qu'il faut qu'il aille sur un bateau, il met de la crème solaire, tu comprends? Sur la poitrine, puis il a bien le droit, puis je m'en fous. Mais est-ce que la GRC est obligée de surveiller ça? Là, je me pose des questions. Premièrement, Katy Perry, elle a une équipe de sécurité autour d'elle. Est-ce que la GRC doit être là? Ben, eux vont considérer que oui, puisque c'est leur travail. Et s'il arrive quelque chose à l'ancien premier ministre, ça va leur tomber sur le dos. Je crois qu'il devrait y avoir un plafond de dépenses annuelles pour les anciens premiers ministres. On n'aurait jamais eu besoin de ça, mais là, on a quelqu'un qui tire sur l'élastique. Tu fais la moyenne de ce que ça a coûté les 3 derniers premiers ministres. Ouais. Tu rajoutes 15 % parce que ça prend une petite marge, étant donné, tu sais, Justin Trudeau, je le disais, là, la pandémie, c'est un personnage qui est plus polarisant, bon, peu importe. Puis tu indexes ça avec l'inflation, tu mets un comité aux communes qui est responsable de faire le suivi de ces dépenses-là, mais on a le droit de savoir combien ça coûte par année. Et basta, si tu dépasses le plafond, tu payes.
Très d'accord.
Moi, je m'en fous, moi, que tu fasses 58 voyages par année. Si tu le fais pas pour le bien du Canada, j'en ai rien à secouer, à un moment donné.
Si tu vas voir ta blonde en show, tu s'en vas dans un festival avec ta blonde, ben là, c'est tes décisions personnelles
public,
à toi. Là.
Je comprends qu'il y a une certaine partie qu'on doit payer parce que tu as servi le Canada pendant 10 ans comme premier ministre. Puis que, OK, mais après ça, t'abuses.
Ben,
là, à un moment donné, ça va faire.
Je suis tellement d'accord avec toi, Justin Trudeau, un abuseur, justement, du système. Non, mais c'est vrai, il nous a mis dans le trou, crime. Il a doublé la dette du Canada en 10 ans. Faut le faire,
ça.
Là.
Puis après ça, il faut se serrer la ceinture à cause de ça.
Ben oui.
Puis toi, tu vas vivre ta best life avec Katy. Je suis très contente pour eux, cela dit. Moi, j'aime ça, l'amour, bravo, OK? Maintenant, on n'a pas d'affaires à payer pour ça, merci.
Non, exactement. On termine avec les négociations Canada-États-Unis. Et là, on va écouter un extrait d'un homme politique, Mark Carney. Vous pouvez l'aimer ou non, mais il se comporte en premier ministre, lui. Tu sais, c'est un homme politique. Mais on va écouter. Non, ben, t'es hésitant à répondre à cette question-là, Antonine.
Est-ce que vous arrivez à tenir tête à Donald Trump, M. Carney?
Écoutez,
nous sommes en train de... Seigneur, hein?
Écoute, le bruit des mouettes était assourdissant. Parce que là, il faut le dire, il était à Saint-Jean.
Exactement, sur le bord de l'eau.
Et là, vous n'aviez pas l'image, mais tu voyais dans sa tête les engrenages qui faisaient « OK, comment je réponds à ça? » Fait que là, qu'est-ce qu'il a répondu? On a-tu la fin de la phrase ou vous voulez que je vous le résume?
Il a répondu là, que c'était des négociations privées et que c'était pas du domaine du public.
Donc,
et que le Canada était fort,
à la question,
etc.
Tenez-vous tête à Donald Trump, à part le bruit des goélands et le silence, il a dit « on va pas négocier sur la place publique ». Point final. Premièrement, il devrait arrêter de dire point final. Je trouve ça d'une condescendance sans fin. T'es premier ministre, il n'y a pas de point final. Je comprends qu'en ce moment, vous négociez, mais un petit problème de transparence et d'attitude, des fois, du côté de Mark Carney. Je vais mettre ça sur le compte de la barrière de la langue. Puis ajouter qu'il y avait des options. On a des options. Puis le Canada, à l'écouter, là, on va être bien correct là, à travers ça. Mais ça démontre-tu à quel point il est sur un fil de fer.
Ben oui, voyons donc.
C'est l'enfer.
C'est
là.
Clair. Ben tu l'as dit, tu sais, Trump est un personnage comme on n'en a jamais vu en politique. Donc, c'est pas juste les Américains ou la garde rapprochée de Donald Trump, c'est surtout Donald Trump. Par contre, je trouve qu'on a eu un coup de main qu'on avait de besoin aujourd'hui du côté du Canada. Et c'est la Chambre de commerce des États-Unis qui a dit à l'administration Trump, OK, là, il faut que tu en conclues un deal parce que là, tu n'as pas idée du nombre d'emplois qui vont être perdus aux États-Unis, de la montée encore des coûts au niveau de l'inflation. Tu vas appauvrir complètement la population puis tu vas détruire l'économie des États-Unis. Ça fait longtemps qu'on dit que ça va être les Américains eux-mêmes qui vont convaincre oui. Donald Trump. Cette sortie-là arrive à point. Là.
Oui, surtout que le monde des affaires est traditionnellement plus républicain.
Oui.
Donc, c'est des voix que Donald Trump risque davantage d'écouter que, évidemment, Bernie Sanders puis mm-hmm. les démocrates. Tu sais, je veux dire, c'est bien le fun de se faire attaquer par des opposants politiques, mais quand c'est le milieu économique qui se plaint, ça a davantage de poids. Donc ça, c'est un de nos espoirs. Hein. Tantôt, on parlait des élections de mi-mandat. Ça, c'est une lueur d'espoir. Mais le monde des affaires, les entrepreneurs, puis bien, les citoyens éventuellement aussi. Si aux élections de mi-mandat décident d'envoyer un message clair à Trump que ça ne fonctionne pas, son approche, bien, ça peut peut-être faire ajuster le tir pour Donald Trump. Hier, il y avait une rencontre entre Dominique Leblanc et oui. les autorités à Washington. Et quand ils sont sortis de là, premièrement, ça a duré plus longtemps que c'était prévu. Moi, j'ai vu ça comme un bon signe.
Ben oui.
Et personne n'a fait de commentaire à la sortie de tout ça, ce qui est également un bon signe. Parce que quand tu as l'impression que tu es proche d'un deal, tu fermes.
Ah oui, tu gardes ça clos, puis c'est tout à fait normal. Là. Même si c'est des négociations qui touchent des entreprises ici
ben,
au
il va
Québec,
falloir
dans
éventuellement
le reste du Canada,
qu'ils nous expliquent c'est quoi
il va falloir avoir des informations. Mais quand tu es dans le crunch des négociations, c'est normal que tu gardes ça entre quatre murs.
Tu veux pas faire dérailler les choses. Donc, dans une négociation normale, tout ça serait des bons signes. Est-ce qu'on est dans une négociation normale?
Non.
C'est ça qui est un peu décourageant. Et même si d'ici demain, on réussit à avoir une entente avec les États-Unis qui ferait en sorte qu'il n'y aurait pas les tarifs de 50% supplémentaires qui ont été annoncés il y a quelques semaines par Trump, ben vous savez tous comme moi que c'est pas parce qu'il a dit quelque chose une journée que ce sera pas
non,
ça le lendemain. Et l'autre affaire, c'est que c'est à la base de la stratégie de négociation de Trump, c'est déstabiliser l'adversaire pour faire des gains. Pensez-vous qu'il va arrêter?
Ben non, il arrêtera pas.
Ça va être ça
moi, je pense
pendant
que
encore deux ans et demi.
Ouais, moi, je pense que demain, on a le scénario Iran 2.0, c'est-à-dire il va dire « Hey, écoutez, les négociations avancent bien, on se donne 60 jours. »
Exact.
C'est ça qui va arriver. Puis là, ben, on verra dans cette période de 60 jours-là combien de fois, comme avec l'Iran, où il a dit à l'Iran qu'il allait les détruire, combien de fois il va nous menacer de remettre des tarifs de 50%.
Je suis absolument d'accord avec ton analyse. Puis ça se peut que ce soit carrément autre chose parce qu'il fait exprès. Je pense que quand il devient trop prévisible et qu'il se fait traiter de taco, il y a des chances aussi qu'ils se disent « Ah ouais, mes motadines! » Quinte, oui. Fait qu'on verra bien, mais une chose est sûre...
Tu es en train de me dire que Donald Trump est entêté. Voyons donc,
Anthony. Ben, voyons donc.
Tu dis ça sur les ondes.
C'est drôle.
De boulevard, 102.
C'est un mélange d'entêtement et d'incohérence la plus totale. Ben, c'est vraiment
tellement...
quelque chose de très, très spécial.
Ouais.
Ça fait un drôle de goût dans la bouche. Cela dit, je pense qu'on va avoir encore d'autres surprises dans les prochains jours. Et pour Mark Carney, c'est extrêmement complexe parce que oui, les gens ne pensent pas que c'est de sa faute ce qui se passe avec les États-Unis, mais il nous a vendu du rêve.
Il s'est présenté comme le sauveur.
Et là, visiblement, il ne sera pas capable de livrer quelque chose qui est confortable. Parce que peu importe le scénario qui va se déployer devant nos yeux dans les prochains jours, il n'y en a pas de scénario où il n'y a pas de conséquences sur notre économie. Il n'y en a pas. Faut être prêt, il faut se tenir la tête haute, il faut être patient, il faut se rappeler que des gens comme Donald Trump, généralement, un jour, ça finit puis ça finit mal. Mais en attendant, ça va faire bobo, les amis.
Antonine Iacarini, toujours un bonheur. On se reparle demain midi et demi.
À demain.
Salut, Anto. Au retour de la pause, Sol Zanetti vient s'installer en studio avec nous, Québec solidaire, qui décide de reculer sur la question environnementale. On va le faire jaser aussi de cette annonce de Paul Saint-Pierre Plamondon et plein d'autres sujets intéressants pour la capitale nationale. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 101. C'est l'émission d'En Jase.
Jusqu'à 102.1.
Émission d'En Jase de ton mardi 18 août. On vient de passer à travers le caucus avec Antonine Iacarini, la toujours pertinente Antonine Iacarini. C'est du lundi au jeudi à 12h30. Mais là, on va rentrer dans une belle heure politique parce qu'on a Sol Zanetti avec nous en studio et on aura le chef du PQ, Paul Saint-Pierre Plamondon, au téléphone vers 13h40. Mathias, avant qu'on s'adresse au co-porte-parole de Québec solitaire, Sol Zanetti, rappelle-nous ce qui est sorti dans les médias concernant la formation de Québec solidaire.
Ouais, ben justement, on a fait un point de presse ce matin concernant à quoi on pourrait s'attendre pour les 100 premiers jours d'un gouvernement sous Québec solidaire. Il y a une mesure en particulier qui retient l'attention dans les médias présentement, c'est qu'on a promis d'abolir le retour forcé des fonctionnaires au bureau 3 jours par semaine. Ce qu'on a dit, c'est qu'on reviendrait avec la mesure précédente, soit une présence minimale de 2 jours par semaine sur les lieux de travail. On a justifié tout en disant qu'il n'y a rien qui a démontrer une baisse de productivité en raison du télétravail.
Sol Zanetti est avec nous en studio. Monsieur Zanetti, merci d'être là.
Hey, mais tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup.
Pourquoi ce recul sur le télétravail?
Le gouvernement, quand il a décidé d'augmenter à 3 jours de semaine l'obligation de présence au bureau, ça a suscité beaucoup de grogne. Mm-hmm. Puis les gens se sont dit, coudonc, c'est quoi la raison de ça? Tu sais, souvent, les équipes qui se sont constituées dans les dernières années, on dit, là, j'y vais 3 jours au travail, mais pas nécessairement en même temps que mes collègues. Fait que je télétravaille, je travaille en présence avec du monde qui sont pas dans mon équipe. Puis dans le fond, je fais des réunions Teams avec mes collègues qui sont pas au travail. Fait que c'est, il appelle ça du téléprésentiel.
Ouais, c'est vrai, c'est ça, je cherchais le mot.
Ça contribue à la congestion routière pour rien. Mm-hmm. Le télétravail, il y a des études qui démontrent que ça augmente la productivité puis le plaisir aussi, le bonheur, là. La conciliation travail-famille notamment, tout ça. Alors, nous, on dit que le gouvernement a fait fausse route, alors on va revenir, on va annuler cette obligation-là qu'il avait mis d'être 3 jours en présentiel. Puis je pense que dans la région de Québec, ça résonne très fort parce qu'il y a eu beaucoup de monde qui n'était pas content.
Oui, bien honnêtement, ça fait plein de sens, là, ce que vous proposez, parce que quand on en parle de télé, de travail obligatoire au bureau 3 jours par semaine, on a toujours énormément de jeunes de la fonction publique qui nous écrivent « Hey, je suis en téléprésentiel, je suis en train de parler à mes collègues sur Teams, les bureaux sont pas aménagés pour qu'on soit autant, etc. » Donc, ça fait plein de sens. J'ai été surpris ce matin lorsque, dans les journaux de Québécois, je voyais que Ruba Gazal, la co-porte-parole de Québec solidaire avec vous, parle d'un recul en matière environnementale, d'une fatigue climatique. Expliquez-moi ça.
Bien, en fait, il n'y a pas de recul pour les propositions de Québec solidaire. Nous autres, on va présenter le plan environnemental le plus ambitieux. Puis qui est réaliste aussi avec la situation dans laquelle on est, là, parce qu'après 8 ans de la CAQ, il n'y a pas eu grand-chose qui s'est fait en environnement. Là, les GES produits par année au Québec, ça n'a presque pas reculé. Donc là, il faut qu'on ajuste nos cibles, la même ambition qu'avant, mais avec la réalité d'aujourd'hui. Puis c'est ça essentiellement. Là, nous autres, on va faire une campagne bien grosse sur l'environnement. On pense que c'est urgent de s'en occuper pour ralentir les changements climatiques puis pour s'y adapter parce que ça va nous coûter vraiment cher si on le fait pas. Tu sais, on parle du coût de la vie là, comme étant une préoccupation principale. Ben, dans 10, 15, 20 ans, ce qui risque de faire le plus augmenter le coût de la vie, c'est les conséquences des changements climatiques si on fait rien. Mais on peut faire quelque chose. C'est encore le temps.
Québec solidaire propose quoi, exemple, pour les infrastructures municipales? Là, je sais que les maires ont sorti beaucoup. Ils ont parlé beaucoup de ça, justement, d'améliorer les infrastructures en raison des changements climatiques. C'est quoi vos propositions?
Bien, on va sortir un plan détaillé, là, tu sais, chiffré avec le cadre financier là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, on veut un réinvestissement massif dans les infrastructures au Québec pour aider les villes à faire face à l'adaptation au changement climatique, mais aussi les écoles, les hôpitaux. Tu sais, il y a eu un sous-investissement pendant des décennies. Puis là, on a accumulé un déficit en infrastructure. Il manque à peu près 20 écoles dans la capitale nationale.
Ouais. Puis là, il y en a qui n'ouvriront pas comme Saint-Fidèle à Limoilou.
Bien, c'est ça. Puis à cause, mais tu sais, ça, c'est une conséquence aussi des sous-investissements parce que à force de ne pas avoir d'argent, même pas pour construire assez d'écoles, bien là, il n'y a pas d'argent pour rénover. Fait que ça retarde des projets de rénovation. Puis là, ça nous mène dans des situations de même.
Oui. Il y a une fonctionnaire qui nous écrit au 418-971-1021. Mathias, c'est drôle. Elle dit le pire, c'est qu'on est revenu à 2 jours semaine pour l'été.
Bon, bien, tant mieux pour vous.
Je vous adore. On est revenu derrière pour l'été. Moi, j'aimerais savoir, dans ces 100 jours-là de Québec solidaire, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on veut absolument mettre en place rapidement, autre que le retour au travail, au télétravail, j'ai envie de dire, des fonctionnaires?
Oui, tout à fait. Bien, Le coût de la vie, ça frappe fort. Puis nous autres, on veut augmenter le salaire minimum parce qu'à peu près 200 000 personnes au Québec travaillent au salaire minimum. Nous autres, on veut. Puis ces gens-là, même s'ils travaillent à temps plein, des fois, ils se ramassent dans une banque alimentaire, pas capable de.
Vous répondez quoi aux entrepreneurs qui disent hey, moi, je vais fermer, ça va me coûter trop cher en ressources humaines?
Ceux qui en ont besoin, on va les soutenir. T'sais, on va les soutenir pour que graduellement, ils puissent faire face à cette hausse-là, puis qu'ils ajustent leur modèle d'affaires sur quelques années. Puis globalement, là, ça, là, tu sais, tout l'argent qu'ils vont gagner de plus, les 200 000 personnes qui en ce moment n'arrivent pas, bien, c'est réinjecté dans l'économie, puis ça va être vraiment bon pour l'achat local.
Est-ce qu'on est encore au 22 $? C'était ça,
oui,
il y a
20 $ de l'heure. C'est ça qu'il faut monter pour être capable que le monde... Tu sais, il y a une affaire qui... Tu sais, tu travailles 40 heures semaine, pas capable de payer l'épicerie puis ton loyer, c'est pas juste.
Ah, oh, c'est une catastrophe. Dans une province juste. Comme Québec, avec le filet social qu'on a, ça n'a pas de sens que des travailleurs à temps plein fassent la file d'un banque alimentaire puis que les organismes communautaires ne suffisent plus à la demande.
Ben c'est ça.
Mais vous n'avez pas, pas peur de créer une inflation, justement. On parle du coût d'épicerie. Si le salaire dans les épiceries augmente d'autour de 3,50 d'un coup, c'est des travailleurs au salaire minimum. Forcément, ça créerait une inflation par le fait même.
Bien, à 200 000 personnes qui vont gagner quelques dollars de plus par heure, tu sais, nous, on estime que ça va avoir un impact positif sur l'économie. Puis, on va avoir des mesures pour aider les entrepreneurs. Puis pour ce qui est du panier d'épicerie, ben on va faire d'autres choses pour réduire le panier d'épicerie. On veut lancer une chaîne de 15 entreprises épiceries de grossistes publics pour amener un nouveau joueur dans l'industrie qui va faire baisser, qui va augmenter la compétition, faire baisser le prix, puis être capable de livrer des produits qui vont faire économiser, on estime par famille, 1 500 $ par année.
Ça ferait-tu, par contre, des épiceries où les gens seraient syndiqués, un droit de grève, etc.? Il y a plusieurs de nos auditeurs qui s'inquiètent de ça dans votre proposition.
Bien, les gens, tout le monde est libre de se syndiquer au Québec. Puis, tu sais, quand les gens se syndiquent, dans le fond, c'est sûr que nous, on veut donner des bonnes conditions de travail. Mais en faisant une chaîne d'épicerie où est-ce qu'on a la chaîne d'approvisionnement au complet, là, ben, on est capable, en donnant des conditions de travail décentes, de faire des économies très, 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 très importantes puis de compétitionner les gros joueurs.
Ça serait des économies de combien à peu près pour une famille par panier d'épicerie?
On estime à 1 500 $ par année.
Ah, par année, OK, parfait. Bon, puis, qu'on le répercute sur 52 semaines, là, c'est quand même une bonne économie.
C'est ça. Puis tu sais, les achats groupés aussi, ça servirait à... Tu sais, on favoriserait l'achat local au Québec. Fait que ça soutiendrait aussi les maraîchers, tous les agriculteurs au Québec. Puis on pourrait fournir avec ce grand grossiste-là les hôpitaux, les CHSLD, les écoles qui auraient des services alimentaires. Donc, on assurerait aussi une permanence puis une prévisibilité aux agriculteurs dans leurs revenus avec ce gros système-là. Et on ferait en sorte que ça coûterait vraiment moins cher, ça aiderait l'agriculture locale au Québec. Donc, à bien des égards, là, ça ferait économiser tellement d'argent.
Je vous écoute parler, je lisais dans le Journal de Québec l'entrevue avec Ruba Gazal, puis je vois dans QS un virage un petit peu plus pragmatique à la Gabrielle Nadeau-Dubois. Regrettez-vous de ne pas avoir pris son virage lorsqu'il était co-porte-parole?
Bien, moi, j'ai jamais embarqué dans cette espèce d'affaire-là. On est pragmatique, on n'est pas pragmatique. T'sais, nous autres, dans le fond, on a des objectifs pour la société québécoise, t'sais, pour notre avenir comme peuple. On veut qu'on soit plus libre, on veut que la vie coûte moins cher, on veut préserver la planète et tout ça. Puis, on a toujours pris les meilleurs moyens pour y arriver, puis on a toujours utilisé des propositions qui sont soit inspirées de choses qui se font ailleurs dans le monde, mais t'sais, appliquées au Québec. Ce qui fait qu'on est sûr que ces affaires-là se peuvent, soit des choses qui sont largement reconnues, qui sont des solutions qui viennent du Québec, puis qui sont tellement reconnues par plein de monde que c'est des choses qui sont vraiment très, très réalistes. Alors, on continue avec ça, puis on a confiance, ça va gagner la confiance des gens.
Je vous vole un dernier 20 secondes, parce que je sais que votre temps est compté. Vous m'avez dit, hey, je vais faire la semaine prochaine ma 100e conférence sur la souveraineté du Québec. Pas le choix d'en parler. C'est le sujet aujourd'hui dans l'actualité avec la sortie de Paul Saint-Pierre Plamondon. Vous pensez quoi de la sortie du chef du PQ?
Bien, tu sais, dans des relations interpersonnelles, quand on veut regarder des bons liens, on parle au « je ». Bien là, je vais parler au « nous ». Fait que nous autres, on ne mettra pas des conditions à l'indépendance. Nous autres, tu sais, ce qui va décider quand est-ce qu'on fait un référendum, c'est nous ici au Québec, c'est pas qui est le premier ministre, le président des États-Unis, pardon. Parce que l'instabilité qu'il y a en ce moment avec Trump, tu sais, si c'est J.D. Vance après, ça va être la même chose. C'est très difficile à prévoir le climat des prochaines années. Puis ça ne doit pas nous ralentir pour prendre nos décisions par nous-mêmes et faire ce qui est important. Parce qu'en ce moment, c'est quand même dangereux dans cette instabilité-là de laisser le gouvernement Carney utiliser les intérêts du Québec comme jeton de négociation avec les États-Unis. Là, la gestion de l'offre est sur la table. Ça se peut qu'ils disent...
Le bois d'œuvre.
Prenez le bois d'œuvre. On abolit la gestion de l'offre pour pouvoir vous vendre du pétrole. Puis ça, c'est très dangereux. Alors, il faut sortir du Canada le plus vite possible. Puis voilà.
Voilà. Donc, QS est en accord avec le PQ sur un référendum dans un premier mandat.
Ah, oui, sauf que nous autres, on n'attendra pas. Nous autres, la question, c'est pas après Trump seulement. Nous autres, c'est dans un premier mandat. On va faire une constitution du Québec indépendant en collaboration avec les Premières Nations et les Inuits. On va la mettre en référendum quand elle va être prête. Puis on met pas la condition là, de après Trump.
Sol Zanetti, merci beaucoup pour votre présence en studio avec nous. Je vous souhaite bon succès dans votre campagne électorale. Pour plaisir de se reparler.
Merci, au revoir.
Merci. Après la pause, on fait un grand tour d'actualité avec Mathias Turcotte à l'émission On en jase. On en jase jusqu'à... Émission On en jase du mardi 18 août. Il est présentement 13h17. À la météo, c'est 25 degrés avec alternance de soleil et nuages. Un humidex à 30 degrés. Mercredi, demain, 60 % de possibilité d'averse avec 24 degrés. Ce serait surtout on parle d'un orage en après-midi. 24 degrés ensoleillés pour jeudi. À plus long terme, 23 degrés pour vendredi ensoleillé. 24 degrés ensoleillés pour samedi. Comment vous avez trouvé Sol Zanetti, candidat dans Jean Lesage? Il a été député là dans les quatre dernières années. Il est co-porte-parole de Québec solidaire depuis environ un an. J'aime toujours choisir avec Sol Zanetti. Je trouve que c'est un gars très transparent. Moi, là, je vais te dire bien honnêtement, Mathias, là, puis c'est 418-971-102 en passant là, pour nous dire comment vous avez trouvé Sol Zanetti. Il y en a qui détestent Québec solidaire. Pas capable, moi, de les détester, Québec solidaire. Ils veulent prendre soin du monde. Pourquoi j'aimerais pas Québec solidaire?
Ouais, ben, je comprends ton point de, tu sais, pourquoi les détester. Puis, tu sais, t'as quand même raison. Puis, je pense que en politique, c'est plusieurs personnes qui ont des idéaux différentes, mais qui veulent toutes la même chose, sensiblement, le bien du Québec et de sa population. C'est le cas de Québec solidaire.
Clairement. Bon, est-ce qu'ils sont malhabiles dans certaines propositions? Assurément. Aussi, le salaire minimum à 20 de l'heure, va falloir qu'ils me prouvent que ça ne créera pas une inflation
ben, c'est monte. Ça. T'sais, dans le sens, je vais jamais justifier pouvoir les détester. Oh, ben, moi, j'ai saï, maudit, les maudits solidaires. Je comprends pas ça non plus.
Mais non!
Mais je peux comprendre le monde qui les entend parler et que leur réflexion, c'est « Ouais, c'est-tu réaliste ce qu'on nous présente?
» Ben, c'est ça. C'est parce que l'intention est toujours noble, je trouve. Ben, derrière Québec solidaire, là. Surtout dans celle d'hausser le salaire minimum, parce que c'est de dire, hey, ça n'a pas d'allure, les banques alimentaires débordent, le monde travaille à temps plein, puis ils sont même pas capables d'arriver. Donc, je trouve que l'intention est très noble. Je trouve que l'intention fait bien du sens. Maintenant, est-ce qu'on prend le bon moyen? C'est là que j'ai un doute.
Ouais, puis il y a beaucoup de questionnements sur ça, puis je le voyais là, revenir par texto tout au long de l'entrevue, certaines personnes qui disaient, tu sais, c'est d'espoir, c'est rêver. Puis effectivement, on revient à la proposition. Mais non, mais on revient à la proposition de 20 de l'heure. Mm-hmm. C'est une augmentation d'environ 25 % du salaire minimum actuel. Là. C'est un peu moins que ça. C'est impossible de penser mettre en place cette augmentation-là puis de ne pas avoir de l'inflation derrière. Là. C'est économique. Si tu augmentes le salaire des personnes qui travaillent dans différentes, que ce soit juste les épiceries ou les chaînes de production alimentaire ou autres, t'sais, à partir du moment où tu augmentes le salaire minimum, la personne qui est à 20 $ va vouloir augmenter aussi. Puis tout le monde va augmenter. Si tous tes salaires augmentent,
tu as
plus d'argent à injecter dans la société. C'est exactement ce qui crée de l'inflation. Donc, à partir de ce moment-là, c'est bien dire faut que ces personnes-là vivent. C'est bien beau dire faut que ces personnes-là vivent mieux, mais je vois pas comment on peut éviter de créer une inflation par le fait même.
Ça me prendrait une étude économique pour me convaincre. Donc, Sol Zanetti, gens de Québec solidaire, arrivez-nous avec ça pendant la campagne électorale. Martin qui nous écrit « Ce qui me gosse avec QS, c'est leur côté condescendant par au fait que si tu penses pas comme eux, t'es un imbécile. C'est typique de la gauche, mais en ce qui a trait à prendre soin du monde, tout à fait d'accord avec toi, Jeff. » Ouais, en effet, dans Québec solidaire, il y a plusieurs individus aussi, quand ils parlent, je me dis « Oh my God, ils s'élèvent au-dessus de la mêlée. » Je crois pas que Joel Zanetti en fait partie, par contre, je le trouve super sympathique, mais je suis entièrement d'accord avec toi, Martin. Continue à interagir au 418-971-1021. Mathias, en attendant Paul Saint-Pierre, Pierre Plamondon qui va être avec nous aux alentours de 13h40. On fait un gros tour de l'actualité.
Ben, tant qu'à parler de Paul Saint-Pierre Plamondon, je vais revenir sur son annonce, sa grande annonce de ce matin à 7h30. On nous avait mis en haleine hier soir. Finalement, ce qu'on nous a annoncé, c'est que le Parti québécois ne va pas tenir de référendum sur l'indépendance du Québec avant le départ du président américain Donald Trump en 2029. Ce qui veut dire que le PQ prévoit toujours un référendum dans le premier mandat, mais on va attendre que Donald Trump quitte la Maison-Blanche du côté américain. Ce qu'on nous dit, c'est que le président américain met beaucoup d'imprévisibilité. Aussi, du côté du PQ, on veut être capable de prouver qu'on est capable d'être un bon gouvernement avant de mettre en place un référendum. Christine Fréchette qui a fait une sortie sur ce sujet-là aujourd'hui, qui a dénoncé l'instabilité qu'un référendum de fin de mandat créerait.
Avez-vous peur d'un référendum 418-971-1021? Moi, j'ai pas peur qu'on aille voir la population et qu'on leur pose la question pour une troisième fois. C'est pas quelque chose qui me fait peur. Est-ce que le PQ a à me convaincre que ça va être viable d'être indépendant par rapport au Canada? La réponse est oui. Mais est-ce que j'ai peur d'un référendum? C'est non. Vous, avez-vous peur d'un référendum? 418-971-1021. Parce que là, c'est la campagne de peur qui est partie autant du côté de la CAQ que du Parti libéral du Québec. Donc, est-ce qu'ils vous atteignent, chers auditeurs, quand ils vous disent « Oh, un référendum, ça crée de l'instabilité. Avez-vous peur de tout ça? » Toi, Mathias, as-tu peur d'un référendum?
Non, j'ai pas. Moi, j'ai jamais eu peur d'un référendum parce que, tout simplement, je pense qu'on va voter non. Fait qu'à partir de ce moment-là, ça me fait pas peur.
Ben, en effet, 30 % seulement qui voteraient oui présentement.
Fait que je trouve que c'est plus une perte de temps que d'autres choses. Moi, je trouve que c'est perdre mon temps, mettre autant d'énergie sur cet enjeu-là. Je trouve que c'est perdre le temps des Québécois aussi de mettre en place cette proposition-là qui coûterait des centaines de millions au gouvernement. Fait que je trouve que c'est une perte de temps. Mais est-ce que ça me fait peur? Non.
Ouais. En même temps, tu sais, je me fais l'avocat du diable puis je réfléchis à voix haute avec vous, cher auditeur, puis avec toi, Mathias, auditeur, auditrice. T'es le PQ, là, leur point numéro un, c'est l'indépendance. Fait que, tu sais, est-ce que le PQ, PQ va être amené à dissoudre si jamais ils perdent un troisième référendum? Parce qu'à un moment donné, ils vont dire, ben, on n'en fera plus jamais de référendum, puis le PQ n'existera plus, puis il va changer de nom.
Mais t'as quand même raison de ce côté-là que c'est leur rangée numéro. En fait, le PQ, initialement, a été créé pour séparer le Québec. Fait qu'à partir du moment où ça disparaît. Ça disparaît du programme du parti. C'est-tu vraiment encore le Parti québécois?
C'est ça, je pense pas. Hey, plusieurs réactions par texto. J'en lis quelques-unes. On y voit, avez-vous peur d'un référendum? Je pense que si on a eu deux noms, je vois pas pourquoi ça changerait. C'est Olivier qui nous crie ça. J'ai pas peur, mais c'est juste que ça va coûter cher pour se faire dire non. Exactement le même point de vue que toi, Mathias. Avoir peur d'un processus? Non. Un référendum n'est pas un statut politique. Pas peur d'un référendum, ça passera pas, mais être un parti politique contre le PQ, je martèlerais que c'est une perte de temps, d'argent et également qu'on attend toujours la démonstration claire que ça va être payant. Je pense qu'il y a quelqu'un qui veut réagir par téléphone. Avoye donc, on va le voir. Oui, bonjour.
Ah
non, ben c'est pas grave. On aura essayé. Donc, vous êtes plusieurs à réagir. Donc, les gens n'ont pas peur, mais comme Mathias, la majorité des gens disent « Hey, ça va être une perte de temps ». Immense qu'un référendum, puis ça va nous coûter de l'argent pour rien. Oui, allô, Boulevard 101?
Oui, bonjour. Ben, salut. Pourquoi avoir peur d'un référendum, étant donné que c'est un processus démocratique? Les gens ont le droit de voter oui ou non. Mm-hmm. Je veux dire, c'est une démocratie pure. Moi, je vois pas pourquoi qu'on n'aurait pas.
Ben, je suis très d'accord. Moi, c'est mon point également. Je pense que d'aller questionner les gens, c'est à propos. Surtout que le dernier référendum est d'il y a 30 ans. Moi, j'ai à être convaincu de voter oui, mais je suis très d'accord avec toi. Moi, quand les partis politiques... Je te pose la question, justement, quand une Christine Fréchette ou un Charles Milliard joue sur la peur, ça te tanne-tu comme moi, ça me tanne?
Ah, moi, ça me tanne. C'est parce qu'on on a l'impression qu'ils n'ont pas d'arguments. C'est pas juste sur la peur qu'il faut miser. Tu as des arguments à contre, ben, il fallait valoir, mais on dirait que c'est comme s'ils n'ont pas d'arguments à présenter autrement.
En effet, ils devraient présenter les bienfaits plutôt de rester dans le Canada plutôt que jouer la campagne de peur. Quel est ton nom?
Pascal.
Hey, Pascal, merci beaucoup d'avoir appelé. C'était super plaisant, notre jaser, non?
Plaisir.
Salut mon chum. Pascal qui nous a appelé 418-780-1021 si vous voulez nous appeler. Pour ceux qui se joignent à On en jase pour la première fois, parce qu'avec les belles annonces qu'on a faites avec Nico qui va s'en venir avec nous, Max avec Catherine Saint-Laurent le matin, bien savez-vous quoi? On est un show ouvert, on est un show de gang, puis on adore vous parler. Oui, bonjour, Boulevard 101.
Oui, est-ce que c'est moi qui
est
en ligne?
Ben oui, t'es en onde, t'es avec Jeff Fortin et Mathias. Quel est ton nom?
Bonjour, Jeff, c'est Jean-Paul.
Salut, Jean-Paul.
La vraie question à se demander, est-ce que la CAQ a tellement peur que le Québec se sépare? Pourquoi ils ont si peur qu'ils sont si certains de les dénoncer? À un moment donné, la game de la peur, elle joue dans le sens, on a peur que vous le faites. Tu comprends? Ils sont comme toujours un peu... moi, j'ai toujours été fédéraliste depuis qu'on y demande... En fait, le Canada, pour comprendre, qui était 4e meilleur pays au monde quand j'étais jeune.
Ouais.
Aujourd'hui,
c'est plus le cas,
on a
hein.
dépassé le 35e, on est 37. On n'arrête pas de reculer. L'autre question, on a-tu peur de rester dans le Canada quand on voit ça?
Ça, en effet,
à un moment donné, la peur, elle peut jouer sur différents niveaux.
Ben c'est drôle, Jean-Paul, parce que je suis un peu comme toi. Moi, tu sais, je suis un souverainiste à être convaincu parce que j'étais très fédéraliste. Mais de plus en plus que ça avance, de plus en plus je vois qu'on prend pas soin des intérêts du Québec, de plus en plus la souveraineté commence à être une option.
Absolument, nos enjeux. Puis quand on regarde les pays qu'on admire, la Norvège, la Finlande, c'est tous des pays plus petits que le Québec. Pourtant,
c'est vrai.
On les regarde, on dit, mon Dieu, ils gardent l'éducation qu'ils font dans ces pays-là. Ils vont faire jouer leurs enfants beaucoup plus tard, tardivement, avant de leur mettre les livres en dessous du nez. Il y a différentes choses qu'on va admirer sur des pays qui sont beaucoup plus petits que nous. Puis nous, qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie propre, on a hydro, on a l'eau, on a la ressource la plus importante, on a l'énergie du bois. On est vraiment proche d'avoir toute notre indépendance. Moi, je pense que c'est le reste du Canada qui a envie de Québec.
Oui, il faudra juste commencer à bien développer nos ressources naturelles. Je suis très d'accord avec toi, Jean-Paul. Hey, Jean-Paul, merci pour l'appel. C'était donc bien intéressant comme conversation.
Merci, bonne journée.
Salut, bonne journée, Jean-Paul, auditeur de Boulevard 101. Je vous le rappelle, 418-780-1001 pour nous appeler, interagir avec nous en ondes. Nos auditeurs sont-ils le fun, Mathias?
On a des auditeurs
brillants. Du contenu, des arguments bien positionnés. Wow, je trippe sur vous autres, la gang de Boulevard 102.
Puis on le voit déjà par texto, là, que souvent, c'est des beaux messages, puis c'est des arguments construits. Mais c'est le fun de pouvoir vous parler de vive voix aussi.
Ah, vraiment. Donc, n'hésitez jamais, 418-780-1021. Les lignes sont ouvertes pour vous à l'émission On en jase avec le plus grand des plaisirs. Mathias, mis à part la souveraineté du Québec et le référendum repoussé après Donald Trump, qu'est-ce qu'on suit?
Oui, bien, on revient sur Bruno Marchand, qui est sorti de ses vacances aujourd'hui. Puis on a traité de plusieurs sujets d'actualité. J'étais sur place aujourd'hui. Je commence par une confirmation qu'on a eue. La nouvelle taxe sur les déchets et l'eau pour les entreprises qu'on voulait appliquer potentiellement. On avait émis l'idée en février dernier de mettre en place une nouvelle taxe pour les déchets et l'eau aux entreprises. Eh bien, je peux vous dire qu'aujourd'hui, Bruno Marchand l'a confirmé.
Erreur sur de manipulation.
La taxe sur le recyclage des entreprises, ce qu'on appelle ICI, là, institution, commerce et industrie, pardon, les vacances, sont... il me manque un I. Ça va venir, c'est sûr. On n'a pas bougé.
Au cours des prochains conseils?
Bien, ça va venir pour le prochain budget. C'est impossible d'éviter le bâton. C'est possible individuellement de l'éviter au sens où les gens vont pouvoir jouer sur leur facture en recyclant, en utilisant mieux l'eau. Mais le bâton, dans le prochain budget, il va venir.
Alors voilà, le bâton va venir, comme j'ai dit tout à l'heure. Faut voir les deux côtés de la médaille. Premier côté de la médaille, hey, les entreprises, les buildings, les commerces qui ne recyclent pas encore, là. Come on, guys, là. On est en 2026, là. Votre homme ou femme de maintenance, là, le sac ordure dans main gauche, le sac à recyclage dans main droite, puis il y a deux bacs différents qui existent. That's it. De l'autre côté, de là, sortir le bâton envers tous les commerçants, parce que... certain que la très grande majorité des commerçants recyclent et le font adéquatement. C'est là, moi, c'est le tout pour tout le monde, alors qu'il y en a la très grande majorité qui ont des bons comportements.
De ce qu'on comprend, puis on n'a pas tous les détails de cette taxe-là, mais ce serait une taxe qui serait mise selon ta consommation.
Selon le poids, hein?
C'est ça. Selon,
c'est la plus
selon les déchets, à quel point tu recycles pas, à quel point tu mets du carton dans tes poubelles, ou aussi selon ta consommation d'eau et combien d'eau que tu gaspilles. Là. Donc, il y aurait quand même un calcul qui serait
pour
pas pénaliser tout le monde.
J'ai hâte de voir comment on va calculer ça, puis peut-être que je vais justement changer mon fusil d'épaule.
Aussi, avec Thomas Marchand, il a pris position sur le troisième lien en affirmant que l'événement de vendredi ne suffisait pas à justifier un troisième lien. Donc, l'événement de vendredi à samedi qui a eu lieu sur les ponts, qui a mené à la fermeture du pont Pierre-Laporte. Il a rajouté toujours attendre la démonstration des différents partis que leur troisième lien améliore la situation. Je reviens sur le rapport du coroner en lien avec un drame qui était survenu il y a de ça quelques mois qui avait fait le tour du Québec. Un accident d'autobus à Sainte-Rose de Watford en mars dernier qui avait mené à la mort de Xavier Landry Rousseau, 13 ans. Ça avait fait... C'était un drame complet dans le secteur de Chaudière-Appalaches puis ici dans la capitale nationale en mars dernier. On a déterminé que c'est en raison des conditions météo difficiles que la sortie de route de l'autobus a eu lieu. La coroner qui a aussi précisé que le port de la ceinture aurait sauvé le jeune Xavier Landry Rousseau dans cette situation précise-là. On n'a toutefois pas émis de recommandation de mettre une ceinture en place dans les autobus scolaires. Ce qu'on a expliqué, c'est que dans ce cas précis-là, oui, ça aurait sauvé la vie du jeune, mais que dans d'autres cas, la mauvaise utilisation de la ceinture pourrait mener à d'autres décès à la place. Les nouveaux tarifs de Donald Trump qui rentrent en vigueur dans quelques heures, à partir de demain, en fait, ces nouveaux tarifs de 50 %. Et du côté des États-Unis, c'est la Chambre de commerce des États-Unis qui a demandé à l'administration de Donald Trump de conclure un accord avec le Canada au plus vite pour éviter ces nouveaux tarifs. Tout ça survient alors que le premier ministre canadien et le président américain se sont parlé au téléphone ce matin. On n'a pas eu de détails concernant cette discussion. Normalement, les deux qui devraient se rappeler au cours de l'après-midi.
Moi, j'étais très découragé par rapport aux négociations, ces tarifs-là, puis je me disais qui va se lever pour nous. Aujourd'hui, je pense que c'est la lumière au bout du tunnel avec la Chambre de commerce des États-Unis qui dit à Donald Trump, hey là, arrête-moi ça. Tu peux pas savoir le nombre d'entreprises qui vont fermer puis comment le monde va avoir de la misère aux États-Unis.
Parce que je le rappelle, les tarifs, c'est une taxe que les entreprises américaines paient lorsqu'elles importent des produits canadiens. Donc, les entreprises américaines le payent directement dans leur poche également.
Et là, ils refilent ça à qui? Aux consommateurs. Mais le consommateur n'a pas plus d'argent aux États-Unis qu'il l'a au Canada ou au Québec.
C'est ça. Mais comme toute taxe, l'entreprise en prend un poids, puis le consommateur en prend un poids également.
Une petite dernière?
Oui, je termine en rappelant le point de presse de Québec solidaire de ce matin sur les 100 premiers jours d'un gouvernement solidaire. On en a parlé un peu plus. Il y a de ça quelques minutes, on recevait Sol Zanetti. Québec solidaire qui propose entre autres d'augmenter le salaire minimum à 20 $ de l'heure dès leur rentrée au pouvoir. On a aussi précisé que pour le retour forcé des fonctionnaires au bureau 3 jours par jour, on mettrait ça aux poubelles. Nous, du côté de Québec solidaire, ce qu'on propose, c'est de revenir à la formule qu'on avait précédemment. Donc, une présence minimale de 2 jours par semaine sur les lieux de travail.
Au sport, les capitales de Québec, avec leur excellent dossier de 57 victoires et 26 défaites, débute une série de 3 matchs à domicile ce soir face aux Miners de Sussex County. Le match est à 19h au Stade Canac. N'oubliez pas le match de jeudi soir, c'est le match boulevard. Tous les animateurs, on sera présents à compter de 17h sur la terrasse du Stade Canac. Venez nous jaser. On aime tellement ça vous parler, chers auditeurs. Les Jays de Toronto amorcent une importante série de 3 matchs face aux Rays de Tampa Bay, premier dans la section Est de l'Américaine, avec 75 victoires et 49 revers. C'est la bête noire, Mathias, des Jays, les Tampa Bay. Ils ont 2 victoires et 8 revers contre eux cette année. En carrière, ils gagnent juste 3 matchs sur 10 au stade de Tampa Bay, les Jays. Donc, c'est vraiment c'est le pire stade pour eux. C'est dans ce stade-là qu'ils ont la pire moyenne de victoires. En plus, Vladimir Guerrero va être absent pour la semaine en raison de sa commotion cérébrale. Les Jays qui ne sont qu'à un demi-match des séries. OK?
Mais ça s'annonce pas bien, là, de ce que je comprends, pour les prochains matchs.
Non, il y a 7 équipes dans la course aux séries. Cette semaine, c'est une semaine très difficile. 3 matchs à Tampa Bay, 3 matchs à New York contre les Yankees. Mais ce qui nous donne de l'espoir, c'est que dans les 30 derniers matchs de la saison, donc après cette semaine, les Jays n'affrontent plus d'équipes qui ont un dossier supérieur à 500. Ah. Donc, vont affronter des équipes de bas de classement ou des équipes avec lesquelles les Jays sont dans la course aux séries. Alors, ça va tellement être intéressant à suivre la fin de saison des Blue Jays.
Donc, à ce moment-là, on a une semaine difficile, mais après ça, c'est là qu'on peut scorer.
Les 30 derniers matchs, c'est le calendrier le plus facile des 7 équipes qui sont dans la course pour le dernier rang en série.
Bien hâte de voir.
C'est intéressant, très positif. Courte pause, on termine l'émission avec le chef du PQ, Paul Saint-Pierre Plamondon.
102.1.
Mais j'avoue que mettre des gants blancs pour ce genre d'exercice, c'est une idée qui ne me viendrait pas.
Jusqu'à 14h, on en jase.
Émission On en jase. On va terminer ça avec Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du PQ. Je vous rappelle que c'est le retour de Gravel avec Denis, Audrey, Véro, équipe complète qui prend les ondes à 14h. Je nous sens très choyé, Mathias, d'avoir justement le chef du PQ, Paul Saint-Pierre Plamondon, au bout du fil parce que je sais qu'il a une journée très remplie au niveau médiatique. Monsieur Plamondon, comment allez-vous?
Ça va très bien.
Good. Grosse journée médiatique, mais vous l'aviez prévu parce que vous avez décidé vous-même de faire une sortie.
Oui, je l'ai dit hier. Donc, comme vous voyez, on ne chôme pas. Dans les derniers jours, il n'y a pas une journée où le Parti québécois n'a pas une proposition ou une candidature de qualité à mettre de l'avant. Donc, déjà, la campagne a pris son rythme. Puis, si vous regardez les prochains jours là, pour le Parti québécois, ça va être rempli de candidatures solides et de propositions. Des fois, on est pris par les médias. Des fois, on procède juste par les médias sociaux parce qu'on en génère beaucoup puis on ne peut pas toujours être pris. C'était le cas notamment de notre position là, sur la production de vin faite au Québec pour débureaucratiser tout ça et avantager nos producteurs.
Vous allez être fiers de moi, j'ai bu du vin québécois en fin de semaine.
J'ai fait la même chose hier.
Ah, c'est donc bien le fun!
Ouais, le serveur m'a dit, grâce à votre proposition, ça va leur coûter substantiellement moins cher, donc ils vont pouvoir faire plus de produits, puis on s'est mis à jaser de ça.
Ouais.
Mais c'est une autre proposition qui n'a pas été du tout reprise dans les médias, pour vous dire à quel point on a des choses à dire, puis on a une campagne qui est en branle, qui a du rythme. Agir sur les chauffeurs à rabais, là, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs accidents sur nos routes parce que des travailleurs étrangers non qualifiés sont illégalement incorporés par des compagnies bidons. Qui nous viennent beaucoup de l'Ontario, puis malheureusement, on était plusieurs mois sans contrôle routier, puis le gouvernement a tardé, donc on a déposé un plan pour redonner un sentiment de sécurité, là, puis s'assurer de la sécurité de nos gens sur nos routes. Donc on a une grosse campagne avec beaucoup de propositions. Aujourd'hui, c'est un des points que je voulais préciser.
Oui, bien c'est ça, je reviens sur votre annonce de ce matin. Ouais. Pourquoi avoir tenu à préciser que ce serait au moment où Donald Trump quitterait qu'on aurait le référendum? Parce que moi, j'avais calculé que dans un premier mandat, Donald Trump allait partir et que vous alliez pouvoir faire le référendum?
Oui, puis j'avais quand même pas mal dit ça. Peut-être pas dans les termes aussi clairs, mais après la partielle de Chicoutimi durant laquelle la CAQ de Christine Fréchette, le Parti conservateur d'Éric Duhaime ont passé toute la campagne à jouer une cassette de peur en disant « c'est le pire moment pour un référendum avec Trump aux États-Unis », comme si le référendum avait lieu le lendemain matin de la partielle, c'était faux. Mais j'ai commencé à dire, après la victoire dans Chicoutimi, écoutez, on va se servir de notre tête, là. On a un engagement qui est clair de consulter les Québécois sur notre avenir, mais on va le prendre au meilleur moment possible, puis on ne fera pas exprès pour choisir des moments qui sont assez imprévisibles. Là, je précise juste une coche de plus. Même si je l'avais déjà dit, j'en fais finalement un engagement.
Vous sentiez le besoin de sécuriser la population?
Ben, ça rend plus clair le fait que on va commencer notre mandat par mettre de l'ordre dans tout ce qui ne va pas au Québec après 8 ans de caquisme. Le logement, l'itinérance, le coût de la vie qui est problématique, la santé mentale et physique des gens, les services qui ne sont pas au rendez-vous, le coût des infrastructures qui est complètement gonflé. Il y a tellement à faire. Et on va se donner également un espace un peu plus tard qui est plus normal puis plus serein pour réfléchir à notre avenir. Donc, essentiellement de dire la campagne s'en vient, je vais être le plus précis possible sur notre plan de match. Puis pour ceux qui s'intéressent à la question de c'est quoi un pays du Québec, on a publié 700 pages qui s'appelle le livre bleu. Toutes les réponses sont là. Et ça va me permettre donc d'éviter une campagne de cassette de peur où Christine Fréchette ne fait que répéter toujours que c'est le pire moment pour tenir un référendum en cause de Trump. Là, une stratégie, rappelons-le, calquée sur ce que Mark Carney a fait pour faire oublier à quel point les libéraux fédéraux étaient catastrophiques au pouvoir. Moi, je pense qu'on mérite une vraie campagne, là. C'est-à-dire avec chaque journée des propositions concrètes qui sont utiles pour les gens. Puis je m'efforce de nous donner cette condition-là, là, que ce soit pas une campagne de peur, mais bien une campagne de proposition.
Totalement d'accord avec ça et nos auditeurs aussi. D'ailleurs, tout à l'heure, on a ouvert les lignes. C'est ce qu'ils nous disaient. 418-971-1021, d'ailleurs, pour interagir. La grande question qui est venue depuis ce matin par texto à Boulevard 101, c'est « Et si c'est J.D. Vance qui remporte les prochaines présidentielles, on y va quand même ou on prend la même stratégie, c'est-à-dire c'est trop instable? »
Le problème en ce moment, c'est pas qu'il y a une administration à droite aux États-Unis, puis si jamais les démocrates gagnaient, puis tu avais une administration très à gauche. C'est pas ça le problème. On a déjà eu Ronald Reagan, puis George W. Bush, qui avaient des tarifs, puis des mesures protectionnistes. D'ailleurs, ce sont des gouvernements du Parti québécois à l'époque qui ont dû négocier avec ça. Le problème, c'est que notre actualité est envahie. Puis des fois, je trouve qu'on couvre un peu trop la politique américaine comme si c'est chez nous, mais demeure qu'on a une actualité envahie par une administration américaine qui dit une chose une journée, puis qui va faire complètement autre chose, puis qui ensuite va menacer de quelque chose d'autre, et ça ne finit jamais. Donc, si on a à choisir dans un calendrier sur le moment opportun pour réfléchir à l'idée de décider par nous-mêmes, puis on vient d'avoir des exemples frappants là, que ça nous aiderait. En ce moment, il y a des négociations avec les Américains. Puis Mark Carney a sacrifié la culture québécoise puis a renié sa promesse électorale sans que le Québec ait son mot à dire. Puis là, dans les derniers jours, on entend la négociatrice en chef du Québec dire « J'aimerais ça qu'on ait de l'information, ce qui démontre que le Québec n'est pas dans le coup. C'est pas normal. »
Craignez-vous pour la gestion de l'offre, le bois d'œuvre?
C'est parce que tout est sur la table dans l'économie québécoise sans que le Québec ait son mot à dire. En fait, c'est Mark Carney qui nous a avertis, ironiquement. Il nous a dit « Si t'es pas à la table, t'es au menu. » Bien, en culture, on a été au menu, puis on est passé à la trappe. Donc, je ne nous souhaite pas de passer à la trappe pour les autres sujets. Mm-hmm. Je dis simplement que décider par nous-mêmes, c'est une bonne idée. Mais est-ce que le moment opportun de débattre de ça, c'est pendant que Donald Trump dit une chose et son contraire, puis qu'il y a une imprévisibilité totale? Je pense que c'est mieux de le faire dans la deuxième partie du mandat, surtout que la première partie du mandat, pour le gouvernement qui va être appelé à remplacer la CAQ, le nombre de défis et de problèmes urgents en ce moment au Québec, il est très grand, donc il ne manquera pas de boulot et de pain sur la planche pour ceux qui sont appelés à remplacer la CAQ. Donc, il y a quelque chose aussi de très terre-à-terre qu'il y aura à court terme des problèmes à régler urgemment après l'élection et on ne peut pas tout faire en même temps. Donc, je pense que j'apporte un degré de précision de plus aujourd'hui sur notre calendrier et ce qu'on veut faire. Puis toute la campagne va apporter des précisions sur ce qu'on va faire comme gouvernement dans chaque domaine. Mais en même temps, ça ne devrait pas surprendre trop les gens qui ont suivi ça de près, parce que j'avais déjà donné des indications en ce sens-là.
Oui, bien justement, est-ce que ça vous a surpris de voir plusieurs souverainistes, indépendantistes, qui ont vu votre sortie comme étant un recul sur la question référendaire?
Bien, moi, ça me fait rire, parce que simultanément, il y a des gens qui disent que je recule à des fins électoralistes, ce qui n'est pas vrai parce que ça fait 6 ans que je dis qu'il va y avoir une consultation des Québécois dans un mandat de 4 ans, puis c'est toujours le cas ce matin. Je vais juste être plus précis. Mais en même temps qu'on me dit ça, il y a des gens qui disent « Ah, c'est un vieux truc, là, il nous annonce quelque chose qu'il nous avait déjà dit. » Donc, à un moment donné, être premier dans les sondages, ça implique que tout le monde dit une chose et son contraire à ton sujet. Moi, je pense que les gens peuvent me lire. Là, j'ai fait une publication Facebook qui voyage énormément. Tout est clair, tout est là. Puis c'est juste plus précis sur ce qu'on va faire, mm-hmm. puis à quel moment. Mais c'est très cohérent avec tout ce que j'ai dit. Là, c'est juste plus détaillé.
Quelques questions en rafale pour vous pour terminer l'entrevue. Churchill Falls, si vous êtes élu, on déchire l'entente ou on la garde?
Bien, ça dépend de ce qu'il y a dedans, mais évidemment qu'un gouvernement du Parti québécois n'a aucun intérêt à déchirer une entente si elle est bonne.
Mm-hmm.
Puis d'ailleurs, là-dessus, Christine Fréchette a commis une bévue, là, parce qu'il faut être un peu insécure pour commencer à dire publiquement que le Parti québécois va déchirer l'entente et que donc il faut voter pour la CAQ. On n'a jamais dit ça. On a été très critique de l'entente négociée par François Legault. Puis la preuve qu'on avait raison, c'est qu'ils sont retournés négocier puis ils nous disent que là, ils ont amélioré l'entente. Si l'entente améliorée qu'on est en train d'étudier, mais qui a quand même une entente de principe. Il y a beaucoup de détails qui n'ont pas été convenus. Mais si l'entente est bonne pour le Québec, évidemment qu'un gouvernement du Parti québécois va maintenir l'entente dans l'intérêt du Québec. On aura potentiellement tellement de problèmes à régler, on ne s'en rajoutera pas pour le plaisir. Mais compte tenu que la CAQ de Christine Fréchette dans des dossiers importants comme le troisième lien, Saclic, Nordvolt, Nemaska, c'est arrivé souvent qu'on nous dit quelque chose qui ne reflète pas vraiment la réalité. Vous nous donnerez quelques mois, là, on a jusqu'au 31 décembre, vous nous donnerez quelques mois pour tout vérifier puis faire une vérification diligente que c'est dans l'intérêt du Québec. Et si c'est le cas, ça va nous faire plaisir de l'entériner parce que c'est dans l'intérêt du Québec.
La CEUM, le gouvernement de la CAQ à l'heure actuelle, via son ministre Christopher Skeet, a dit hey, si ça ne fait pas notre affaire, les négociations qui se passent, on va se retirer de la CEUM. Bon, je sais que vous rêvez au PQ d'avoir votre propre pays, mais en attendant, là, on est dans le Canada. Là. Êtes-vous d'accord avec la position de la CAQ?
Bien, c'est symptomatique. Ça m'inquiète. C'est pas tant d'être d'accord ou de pas d'accord, mais si tu avais des négociations dans le cadre desquelles le Québec participe, puis est à la table, puis son discours est entendu, tu n'aurais pas un gouvernement de la CAQ qui est en train de préparer l'hypothèse qu'on est obligé de complètement se soustraire parce que personne n'a considéré nos intérêts dans cette histoire-là. Mm-hmm. Donc ça, c'est symptomatique de ce qui se passe.
Ça, je suis d'accord avec vous, mais je vous mets premier ministre demain matin. Là. Puis là, il y a quelque chose qui ne fait pas votre affaire. Exemple, on a laissé tomber une partie de la gestion de l'offre. Partez-vous de l'OCM?
Ça dépend, on est face à quoi. Là. Donc là, je peux pas...
Parfait.
Ça dépend de ce qu'on aura devant nous. Mais ce que je vous dis qui est inquiétant, c'est qu'en ce moment, le gouvernement de la CAQ est fixé sur le téléphone en espérant que le fédéral appelle pendant que nos intérêts sont sur la table. Ça, c'est pas bon. C'est pas normal. Puis un gouvernement du Parti québécois a promis déjà une équipe Québec de négociation, puis aura un tout autre ton avec le fédéral en leur disant « on vous laisse pas le choix de nous intégrer, et si vous nous intégrez pas, vous allez avoir maille à partir. » Il y a une manière de se tenir un peu plus debout vis-à-vis ce que le fédéral fait, parce qu'il est en train de jouer avec nos intérêts, mais sans notre consentement, comme il l'a fait en culture, en reniant sa promesse électorale de Mark Carney, et en sacrifiant la culture pour plaire à une administration Trump qui, finalement, n'a pas changé pour autant son fusil d'épaule. Ça n'a rien changé, à part qu'on a sacrifié les intérêts du Québec pour rien.
Deux petites dernières questions rapides. Comment vous allez éponger les dettes des sociétés de transport si votre plan mobilité fait en sorte que ça va coûter plus cher?
Oui, donc ça va coûter plus cher, mais en même temps, le cadre financier qu'on va déposer durant la campagne va mettre fin à un gaspillage historique. Là. Le Fonds de développement économique sous la CAQ aura perdu 6,3 ou 4 milliards de dollars.
Donc, vous allez me dire, il y a place à réinvestissement.
Bien, il y a place à arrêter le gaspillage, là, ça suffit. Donc, nous autres, on a déjà
dit
qu'on abolissait le Fonds de développement économique. C'est même pas qu'on dit qu'on va réduire.
Okay.
On l'abolit. Et quand Christine Fréchette termine son mandat en donnant 265 millions à 5 entreprises seulement sans qu'il y ait de publicité ou d'explication sur pourquoi elle fait ça, il faut rappeler qu'elle a été plus dépensière que Pierre Fitzgibbon, qui lui-même était le plus dépensier qu'on avait vu depuis longtemps. Donc, laissez-nous déposer le cadre financier, là, puis vous verrez que ça a de l'allure, mais qu'on change d'approche au niveau du bar ouvert des subventions aux multinationales comme Northvolt. Puis au niveau du gaspillage, par exemple, ça clique, ça a coûté plus qu'un milliard. Là, c'est pas rien. Là. Donc, tout ça va être présenté durant la campagne.
En 30 secondes, pourquoi un troisième lieu uniquement en transport en commun pour Québec?
Bien, en ce moment, moi, j'ai référé au plan de la Caisse de dépôt. Donc, on a mandaté la Caisse de dépôt. Elle nous présente trois étapes. Puis, sa troisième étape est en 2034. Puis, elle parle d'un tunnel de transport collectif. Ça fait des années que le gouvernement fait autre chose que les études qu'il commande. On aura perdu 79 millions de dollars en études qui ont servi à rien, à réinventer là, sur un coin d'une table un troisième lien qui n'aura pas lieu sous la CAQ. Donc, nous, tout ce qu'on dit, c'est qu'on va faire une annonce en campagne sur le sujet du troisième lien. C'est un sujet important pour Québec. Mais on va tenir compte de ce que la Caisse nous dit puis des étapes qu'elle va suivre. Mais dans tous les cas, lisez-le le rapport en trois étapes.
Oui, je l'ai lu.
Il n'y a rien avant 2034 pour l'étape 3. Là.
Donc, auriez-vous une ouverture pour du routier d'ici 2034?
Je vais revenir sur ce sujet-là en campagne parce qu'à chaque fois que je parle un peu de ce sujet-là, c'est comme un tsunami sans que je puisse expliquer c'est quoi la Twitter.
Ah oui, le troisième lien fait jaser, je savais pas.
Ben, il y a cet aspect-là. Je vous l'apprends.
Merci.
Laissez-moi faire une journée là-dessus en campagne. Puis,
parfait. Et ça va nous faire plaisir de vous recevoir en ondes, justement, lorsque vous ferez votre journée troisième lien. Monsieur Paul Saint-Pierre Plamondon, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler à Boulevard 101. On l'apprécie énormément. Merci, au revoir. Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois. Mathias, il y a un gros problème de circulation.
Oui, bien juste vous mentionner, c'est Olivier qui nous écrit. Il y aurait présentement un camion en feu sur Laurentienne en direction sud. Ce serait à hauteur de Le Bourgneuf pour le moment. Effectivement, il y a de quoi dans le secteur, c'est au ralenti.
On pourra en parler demain, l'entrevue avec Paul Saint-Pierre Plamondon, parce qu'il faut laisser notre place pour le retour de Denis Gravel. On sortira peut-être des extraits, tiens Mathias. Mais une chose est sûre, je trouve que j'ai retrouvé PSPP aujourd'hui. Un PSPP plus pragmatique, plus calme, plus clair. Ça fait différent de sa dernière année où il était plus saupoulé.
Les vacances, ça fait du bien.
Ouais, c'est un bon point, ça, Mathias Turcotte. T'as entièrement raison. On se reparle demain midi?
Yes, sir, à demain.
Denis s'en vient avec Véro et Audrey. Restez avec nous.